Auditrices, auditeurs de Radio Mindéléo, bon dimanche à vous et merci de nous avoir choisis. Nous, c'est Radio Mindéléo dans notre émission Paix et Développement de ce dimanche 8 décembre 2024. Jean-Claude Ndage à la mise en onde devant le micro Thaïs Baboula. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30, heure de Bukavu. Un seul sujet va nous intéresser dans cette émission Paix et Développement. La société civile, force vive du Sud-Kivu, les mouvements citoyens et d'autres structures citoyennes et groupes de pression en province du Sud-Kivu jugent inopportun les projets de révision ou changement constitutionnel annoncés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Également, l'opposition dans sa diversité au Sud-Kivu s'est exprimé cette semaine en disant également non à la révision ou au changement constitutionnel. Nous allons en parler dans cette émission Paix et Développement. Comme je l'ai dit, nous sommes devant le micro, c'est Thaïs Baboula. La rediffusion de l'émission, c'est tous les lundis 19h30 sur Radio Mindéléo. Nous sommes suivis sur deux fréquences, 88.8. 91.7. Nous sommes également sur les www.radiomindeleo.info. Nous remercions les radios communautaires qui prennent cette émission en relais. Bienvenue donc, chers auditeurs de Radio Mindéléo. Il est temps d'accueillir dans ce studio les invités qui sont déjà là. Nous sommes avec Maître Amani Luamba, président national du Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance, Baraza La Raïa. Bonjour Maître Amani Luamba.
Bonjour Dr Thaïs et bonjour à tous les invités. Nous saluons également la population du site Kivu qui a cette moment scotché en fait de suivre notre émission Paix et Développement.
Merci. Madame Yvette Roubouye, Chirangashane, elle est du PPRD. Bonjour Madame Yvette.
Bonjour, nous saluons aussi tous nos camarades qui sont en train de nous suivre en ce moment, ainsi que la population du site Kivu et ailleurs.
Merci. Dans ce studio, nous sommes avec Monsieur Jean-Baptiste Badera. Jean-Baptiste Badera, il est conseiller au ministère national du budget. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Thaïs et merci de m'avoir invité.
Dans ce studio, Blaise Maseka, il est prosec du FPCN au Sud Kivu. C'est le parti cher à Claude Nyamugabo. Blaise Maseka, bonjour.
Bonjour Thaïs, bonjour à tous les auditeurs.
Nous sommes dans ce studio avec Madame Nene Bintou Iragi. Elle est la présidente de la société civile Force Vive. Bonjour Madame.
Bonjour Thaïs, je salue les débatteurs ainsi que la population du site Kivu et tous les animateurs et animatrices de la société civile.
Merci. Dans ce studio, nous sommes avec Todor Moussemé, il est d'élu de PES. Todor Moussemé, bonjour.
Bonjour Thaïs et merci de nous avoir invités. Spécialisation à tous les auditeurs de la radio.
Merci. Il est temps de donner d'abord la parole à Jean-Baptiste Badera. Vous l'avez suivi, chers auditeurs, nous vous l'avons annoncé. Le ministre national, le ministre d'État et ministre du budget, Aimé Bodji Sangara, est arrivé à Bukavu hier et il avait une grande activité que Jean-Baptiste Badera va devoir nous faire découvrir comment ça s'est passé. Rebonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Thaïs et bon dimanche à tous les auditeurs et auditrices de Radio Mindéléo.
Voilà, le ministre d'État et ministre du budget, Aimé Bodji Sangara, pilote une grande structure qu'on appelle Génération Aimé Bodji Sangara. Et hier, nous avons appris qu'il y avait une grande rencontre.
Oui, justement, c'était une grande rencontre. Il y avait d'abord l'Assemblée Générale de cette ASBL, une association sans but lucratif. Et il y avait aussi une cérémonie d'adhésion des nouveaux membres qui ont voulu se joindre à ce que la génération ABS est en train de faire en matière de développement, parce que là, c'est une structure qui nous aide à mener quelques actions de développement en faveur de nos populations. Donc, c'était ça la principale activité du jour, mais parce que le ministre d'État, et le ministre du Budget, aimait devrait être à Tanzanie hier même, et il avait un vol qui devrait transiter par Goma, c'est pourquoi il a estimé nécessaire de passer aussi, assister à cette, ou mieux participer à cette activité, pour féliciter les nouveaux adhérents, mais également pour parler très brièvement de l'actualité de l'heure. L'actualité de l'heure, comme vous le savez, reste dominée, comme vous venez de le dire ici, par ce projet de changement ou de révision de la Constitution, tel que souhaité par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, il ne pouvait pas ne pas en parler hier à ses nouveaux adhérents, mais aussi à ces milliers de personnes qui sont venues assister à cette activité hier dans la salle Martin Day, ici à Bukavu.
Voilà, et il s'est exprimé donc hier pour ou contre la révision de la Constitution.
Bon, d'abord, il faut aussi saisir de l'occasion pour remercier toute cette population qui est venue hier participer à cette activité. C'était en tout cas des milliers. Il y a aussi ces 2500 nouveaux adhérents dans la génération ABS qu'il faut également féliciter et remercier. Et le ministre d'État, ministre du Budget, a aussi profité de cette occasion pour les féliciter. Et il est d'abord, par rapport à la question que vous venez de me poser, s'il est pour ou contre, il est tout à fait d'accord avec ce projet de changement de révision de la Constitution. Parce qu'il estime qu'il y a des choses qu'il faut améliorer dans cette constitution, mais aussi c'est tout à fait normal, c'est dans les droits de changer, mais il a aussi expliqué en droite ligne comment cela va se passer, parce que le chef de l'État va mettre sur pied une commission pour étudier, pour donner le mode d'emploi, comment ça va se faire. Il n'y va pas comme ça, d'une façon désordonnée. Donc, il a montré, par exemple, qu'il fallait donner assez de quotas aux femmes et aux jeunes dans les nouvelles institutions. Et c'est entre autres points de vue qu'il a donné. Il a aussi salué le point de vue des autres qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, notamment la société civile, le bureau de coordination du Sud Kivu. C'est tout à fait d'accord. C'est un débat. Ce n'est pas un combat, mais c'est un débat. Et il n'est pas interdit aux gens, aux personnes de débattre. Donc, en tout cas, lui se range derrière le projet du chef de l'État. Il est soutien à 100%. Et nous, en tant que ses collaborateurs, nous les soutenons aussi dans cette démarche-là, de voir cette constitution changer ou améliorer ou revisiter. D'accord. C'est tout à fait normal, c'est prévu par la loi.
D'accord. Et donc, hier, c'était une grande activité à Martin Day.
C'était une très grande activité. Et cette activité, je pense qu'elle ne va pas se limiter seulement au Sud Kivu. Ça va dépendre maintenant de la coordination. Parce que là, il s'agit de maître Justin Mapatano qui s'en occupe. Il va donc donner les chronogrammes où ça fait des routes par rapport à la suite des activités à suivre dans cette ASBEL. Bien sûr qu'il y a aussi d'autres activités telles que, par exemple, il y a des inaugurations qu'on devra faire très prochainement. Il y a des projets qui sont finis qu'on devra inaugurer. Mais cela va dépendre de l'agenda de son Excellence Monsieur le Ministre d'État, parce que c'est pas facile de se déplacer quand on a un tel ministère, mais en tout cas c'est prévu aussi que d'ici là ça sera inaugurer tous ces projets, mais aussi faire l'inspection des projets qui étaient déjà finis, qu'on devra améliorer ou corriger là où ça il y a quelques problèmes qu'il faut corriger ou améliorer.
D'accord. Et il y avait une question qui a failli nous opposer la fois passée et on s'est posé des questions. Je crois que Amani Luamba va se rappeler tous ces projets qui sont réalisés par le ministre d'État. Est-ce qu'il est fait à son nom ou il est fait au nom du gouvernement?
Mais c'est même là le débat. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les projets que Aimé Bogi initie peuvent à eux seuls intéresser les populations à Bukavu. Parce qu'il n'y a pas que lui qui fait ces projets. Il y a d'autres acteurs politiques qui font des projets dans la ville. Mais pourquoi seulement si c'est Aimé Bogi qui les fait? On peut faire le répertoire de tous les projets, même des projets qui sont annoncés mais jamais faits, vous ne les attaquez pas. Mais lui fait et réalise. Les gens ne sont pas contents. Ça m'étonne. Il y a des gens qui viennent ici, des acteurs politiques, ils promettent, mais ne réalisent jamais. Ce sont ces gens-là plutôt qu'il fallait se poser des questions. Mais lui promet et réalise. Et il n'est pas interdit. Il peut avoir un salaire, il peut prendre un crédit, il peut avoir une prime, et cette prime-là, il les met au profit des populations. Ce n'est pas dit qu'il a ouvert une entreprise pour générer des recettes, ce n'est pas dit qu'il a ouvert une savonnerie pour se procurer de l'argent, mais il les fait au bénéfice des populations. Un hôpital, une école, une adduction d'eau, l'électricité, drainage de marée, c'est au bénéfice des populations. Mais comment cela peut gêner et commencer à faire des interrogations comme si Aimé Bouji était le seul politicien qui fait des actions? Moi, je pense que plutôt, il fallait le saluer et l'encourager dans cette démarche-là à travers la génération ABES et prier pour lui qu'il vive longtemps pour le bonheur de ces populations-là.
Et qu'il reste le plus longtemps possible à ce ministère.
Non, ça, ce n'est pas... Le ministère ne peut pas être éternel. Ça, c'est clair. Il ne peut pas être éternel au budget. Ce n'est pas son ministère. Mais si il peut être... Le problème n'est pas être éternel. Mais s'il est le plus longtemps possible, où est le problème? C'est le site qui gagne. C'est Mandela qui gagne, c'est Mandela, c'est le développement. C'est le développement qui gagne. Moi, je trouve que s'il est là le plus longtemps possible, c'est tout à fait normal. Mais ce qui nous avait choqué, nous, en tant que ses collaborateurs, c'est le fait de s'être focalisé sur un seul acteur politique dans un débat qui se veut démocratique et pédagogique. Et là, ça a même ouvert le débat sur les autres acteurs politiques qui font des projets, qui font des réalisations dans la ville. Ils sont nombreux, mais pour ne pas blesser la susceptibilité de certaines personnes, je ne peux pas commencer à les citer ici parce que ce n'est pas ça le débat. D'accord. Mais par rapport à ces jours-là, c'était vraiment un peu malheureux de constater que un homme, l'acteur de développement, vous savez, hier dans la salle Mater Dei, il y a des gens qui, quand le ministre a commencé à développer son point de vue par rapport à ce projet de revoir ou de changer cette constitution, il y a une femme qui a dit, qui a crié, non, non, tu peux même partir, tu as tout dit. Hein? Tu as déjà tout dit. D'ailleurs, beaucoup, même en dehors de la salle, commençaient à nous poser des questions que Aimé Bouji a trop traîné, compte tenu de sa position actuelle en tant que un leader émergent, en tant que fils du Sud Kivu, en tant que membre du gouvernement, en tant qu'élu. Depuis trop longtemps dans les territoires de Walungu et récemment à Bukavu, comment est-ce qu'il a trop traîné pour se décider par rapport à ce projet? On s'est demandé, il est dans quoi exactement? Est-ce qu'il est pour, il est contre? Ça a un peu embarrassé les gens. Et hier, les gens se sont sentis déchaînés, se sont sentis libérés par rapport à cette position de Aimé Bouji, dont beaucoup attendaient. Il y aura beaucoup de débats, Thaïs, ne s'en faites pas. Aimé Bouji est pour cette révision-là. Il y a d'autres qui sont déjà prononcés, notamment
Claude Mugabo,
et d'autres vont se prononcer pour ou contre. C'est le théisme, c'est le débat. Le Sud Kivu, c'est une province intellectuelle. Ce n'est pas un ring de boxe ou un tatami pour le karaté. Ici, c'est un débat intellectuel que les intellectuels vont mener. Il y a toute une démarche prévue pour arriver à changer ou à revoir cette constitution-là ou à l'améliorer. Il y a toute une démarche à suivre. On connaît, il y aura les référendums. C'est le peuple qui va se décider au finish.
D'accord.
Ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas Thaïs, ce n'est pas Jean-Marc, ce n'est pas Maître Néné, c'est le peuple. Mais il n'est pas interdit aux gens de réfléchir.
D'accord.
C'est même ça le mot de Radio Mandéo, la liberté d'expression, la liberté de réflexion. La ville de Bukavu est une ville intellectuelle et je suis très content de voir que Aimé Bouji a donné son point de vue et, comme je venais de le dire, il est pour aider le chef de l'État pour revoir cette constitution.
D'accord.
Oui.
Merci. Donc, le ministre d'État, il est parti en Tanzanie.
Bon, hier, il devrait partir hier en Tanzanie parce qu'il avait un rendez-vous calé à 18h à Dar es Salaam, mais ça n'a pas été le cas. Il y a eu un problème technique au niveau de l'appareil, mais qui a été réparé. Il est donc reparti ce matin pour aller répondre à cette invitation-là. Donc, il sera là à Tanzanie ce matin et demain ou ce soir même la nuit, il pourra rentrer à Kinshasa pour qu'il puisse reprendre avec les activités d'État demain, même si là aussi c'est pour des activités très importantes.
D'accord. Nous saluons donc les nouveaux adhérents dans... C'est la J...
La JABES.
JABES, voilà. Merci beaucoup.
Bon, merci, Thaïs.
Nous allons vous laisser partir.
Bon, je vois qu'il y a une question que maître... Je ne sais pas si vous l'autorisez. Parce
oui,
pas
oui,
que
oui sans problème, sans problème. Oui. Maître Emmanuel Lomba, oui.
Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur la question qu'a développé le compatriote et grand frère Badera par rapport aux interventions... aux actions menées par nos leaders politiques. On ne doit pas avoir l'impression de dire que peut-être on s'attaque à la personne de Aimé Bouji. Non, Amani Luamba, en tant que parlementaire citoyen, j'ai toujours fustigé l'implication, les interventions de tous ces hommes politiques congolais depuis des années, étant aux affaires, ayant mandat public, mais qui font les choses, des grandes choses d'ailleurs, au nom, à leur propre nom et leur propre compte. Et pourtant, ils engagent le gouvernement. Et c'est ce que nous avons prestigé étant que parlementaires citoyens. Comment ? Par exemple, à la personne d'un ministre d'État en charge du budget, qui a la possibilité, autour d'une conférence des ministres, pas la conférence, mais autour du conseil des ministres, de poser ou proposer un préalable ou démontrer une situation préoccupante de la population et que le gouvernement, à travers les ministères sectoriels, puisse s'impliquer à trouver la solution. Par exemple, le cas de nos écoles en élaborement avancé, nos états des routes, des dessertes agricoles, le problème de McDo, il y a beaucoup de problèmes. Mais il se contente, bon, comme bienfaiteur, comme Dr. Sid Kivu, de dire, bon, alors moi je vais prendre des crédits comme l'a dit Badera, ou je vais prendre de mon salaire, de mes primes, et faire quelque chose pour ma population. Et pourtant, il a la possibilité dans les salons du Conseil des ministres d'instiguer les ministres de tutelle, afin d'intervenir. C'est ce que nous avons fustigé. Nous encourageons en tant que citoyens, je me trouve à Christ, ou Fanya Wemani Amzuri, mais en tant que ministre d'État, ayant un mandat public, il devrait amener le gouvernement à s'exécuter. C'est ce que nous faisons d'ailleurs aujourd'hui, parce que Machungu ya Raia inapita.
D'accord.
Et pourtant, il y a maintenant une catégorie de gens qui bénéficient de tous les privilèges de nos ressources naturelles.
D'accord, d'accord. Bon, oui, bon, j'espère.
C'est tout à fait normal, c'est un point de vue.
Voilà.
Moi, j'estime que c'est un citoyen, il a le droit de réfléchir et de donner son point de vue. Lui n'est pas d'accord, mais les populations bénéficiaires sont tout à fait d'accord et sont contents de voir que l'eau coule de leur robinet,
les gens
de
qui voir que bénéficient de lampadaires.
La proximité des hôpitaux, l'insécurité qui diminue dans certaines avenues parce qu'il y a l'éclairage, ce n'est pas un problème. Et puis, lui n'est pas Premier ministre, il n'est pas chef du gouvernement pour dire que non, il doit impulser, pour dire que non. Mais son travail en tant que ministre du budget, il le fait quand même. Je pense que sur le plan, il y a le satisfait de la Banque mondiale, de FMI par rapport à sa prestation. Au niveau de la ville de Bukavu, les gens qui travaillent, ils savent ce qu'il fait en leur bénéfice. Ce n'est pas un secret. En tant que ministre du budget, il fait. Mais comme ce n'est pas le débat, je préfère que prochainement vous venez dans cette émission, qu'on puisse faire un débat sur les réalisations de Bodji par rapport à son travail au bénéfice des populations qui vous dans cette émission. Et là, je serai très content de vanter ça. J'ai tout le répertoire par rapport à ça. Mais il n'y a pas de problème. Oui, maman.
Oui, je voudrais seulement, tout en remerciant ou en encourageant nos honorables notables, comme ils aiment qu'on les appelle, ce sont les notables de Chikivu. Ils les sont. Oui. Je voudrais seulement rappeler, comme on a la chance d'avoir Jean-Baptiste ici, mon prédécesseur Adrien Zawadi avait été reçu par le chef de l'État qui avait instruit au ministre Bodji d'appuyer la société civile du Sud Kivu pour la construction de la maison du citoyen, parce qu'il était émerveillé de savoir qu'il y a une société civile qui a sa parcelle et qui veut travailler. Je pense que c'est mieux de lui rappeler cela, parce que ça fait 3 ans qu'on attend. Et je pense qu'on ne sera pas puni pour ça, parce qu'on est contre les changements de la constitution.
D'accord.
Je voulais d'abord parler avec madame la présidente de la société civile par rapport à cette question. Je pense que cette question est connue. On a à débattre ça et vos processus ont été reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et ils ont eu l'occasion de parler de ça, comme vous l'avez dit. J'ai été très content de voir que Sivil a quand même des initiatives et dispose d'un terrain où on peut construire un bâtiment. Et justement, il y avait cette instruction qu'il avait donnée à son Excellence, Monsieur le Ministre. On en avait parlé avec toi il y a 4 mois, à Kinshasa, avec son Excellence, que vous avez reçu, contrairement à ce qu'ils m'ont dit devant quand j'entrais dans ce bureau, que Badera bloque les gens pour voir le ministre. Moi, je vous avais appelé alors que vous étiez à vos d'autres occupations pour venir le voir. Vous l'avez rencontré, vous avez parlé avec vous, avez parlé d'environnement, gestion du parc de Kaouzi, gestion de la Kivu, vous avez parlé en tout cas beaucoup de choses,
et notamment sur
des enseignants aussi, mutuelles, tout ça. Vous avez parlé, vous avez défendu tout ça, et je pense qu'il a même eu une initiative pour aller voir son Excellence F. Bazaïba par rapport à certains dossiers de la société civile du Sud Kivu. Par rapport au bâtiment, le projet est là et ça va s'exécuter. Parce que j'en ai parlé avec lui quand vous étiez dans la réunion là, récemment avec l'Ituri et le Nord Kivu. Vous venez de Kinshasa,
oui, oui.
À Pullman. Je lui avais dit que vous étiez là. Malheureusement, il était pris par les budgets.
qui devait défendre les budgets, il y avait tout ce qu'il y avait comme agitation au niveau de l'Assemblée nationale, vous le savez, vous suiviez l'actualité, et donc c'était un peu compliqué pour qu'il puisse vous donner la réponse, mais au moins le projet là, parce qu'il m'a dit clairement qu'il faut qu'on puisse voir comment accélérer, qu'on puisse aller de l'avant par rapport à ce qu'il avait promis à la société civile du Sud.
D'accord, Badera. Voilà, madame Yvette Rebouye, vous êtes également dans ce studio.
Oui, oui. Merci beaucoup vraiment pour tout ce que Badera vient de présenter ici comme les œuvres louables que notre frère du territoire de Walungu, parce que moi je suis de Walungu, et tous ces projets qu'il est en train de réaliser dans le cadre de Mtoto Mgini. Mais quelque part, je me pose la question parce que nous sommes en train de parler, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est notable ou qu'il a été élevé vraiment au niveau de la province du Sud-Kivu. Bodji, je pense que carrière, il n'y a que politique. Il fut toujours ministre. Il a été toujours élevé quelque part. Mais curieusement, le territoire de Walungu, c'est toujours un endroit où il y a n'importe quoi à boire et à manger. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, on faisait ici à Walungu 30 minutes. Moi, j'y allais chaque fois, même parfois, je pouvais quitter ici. 40 minutes, je suis à Walungu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui passent même la nuit sur la route de Walungu. Et je pense bien qu'il y a eu même des promesses qu'on a donné que non, la route sera vraiment réhabilitée et dispassée même. S'il vous plaît, je suis en train de parler. Lui, il est ministre du budget. Et par lui, il y a des projets qui passent aussi. Parce qu'il y a des projets, des investisseurs qui passent. Et en passant, parfois, ils passent aussi par le budget. Même si c'est le premier ministre qui doit être contacté et le chef de l'État, mais lui aussi, étant quand même cette porte-là du budget, il connaît toujours les projets qui passent dans le pays, et comment il peut aussi faire le plaidoyer pour que son territoire puisse avoir ne fût-ce qu'une route, que ce soit la route même des dessertes agricoles, que ce soit même la route principale. Donc moi je me dis quelque part, parmi les projets qu'il est en train de faire, qu'il pense aussi à son territoire. Dans le cadre aussi d'aider à ce que le territoire puisse avoir l'accessibilité comme avant.
Merci. Moi-même, je suis de Walungu, mais je suis du groupement d'Irongo. Je suis même de la famille de Rali.
Moi, donc, je viens de là il y a un mois.
Vous en comprendre. Ouais. Non, je suis de Walungu. Mouloudi, je suis de la famille de Rali. Donc, c'est ça ma lignée. Je suis de Walungu, de Irongo. Et j'ai ma parcelle à Walungu Centre. Et je vais à Walungu régulièrement quand je suis ici. Tous les jeunes gens de Walungu me connaissent. Je vais là régulièrement.
Je sais.
Hein? Donc ce n'est pas, je connais l'état de cette route. J'en parlais encore hier. Mais par rapport à Bodji, d'abord il faut corriger. Ce n'est pas depuis longtemps qu'il est ministre. Il a été élu député. Il a été ministre trois fois député. Il a été ministre au commerce extérieur pendant deux mois. Et c'est moi, depuis 2021 qu'il est ministre au budget. Donc ce n'est pas depuis tout ça, il est avant ça, il travaille.
Non, j'ai dit qu'il a été élevé au rang politique.
Au politique, mais
il fallait... Mais il fut aussi ministre.
Parce que toute vérité n'est pas exacte.
Parce que même au niveau de l'Assemblée, il pouvait aussi faire le plaidoyer.
Au niveau de l'Assemblée, il a fait des plaidoyers. Parce que n'importe qui n'a rien fait pour le territoire de Walungu. C'est pourquoi il a été élu trois fois. On ne peut pas dire quelqu'un trois fois.
Moi, je connais comment il est passé. Nous tous, nous avons été alliés.
Je n'ai pas envie de dire. Moi, je n'ai pas envie.
Oui, je suis un candidat. Je sais la manière dont
j'ai passé. Attends, mais moi, que je précise. Oui. Parce qu'il a dit des choses que je ne peux pas laisser passer. Oui. Il a été élu trois fois.
Il a été nommé trois fois, oui.
Mais finalement, on est dans quoi? Mais il a été nommé trois fois comment? Parce que récemment, il vient d'être élu encore. D'accord. Ce n'était pas sur le régime du
PSDG.
Oui, il a été nommé comment? Il faut quand même être quand même assez élégant dans le langage. Quand tu parles devant les gens qui t'écoutent, parce que sur le point de te ridiculiser.
Écoutez,
et toi maintenant, c'est moi qui ai la parole.
Voilà, Jean-Baptiste.
Moi, je vais terminer. Il faut quand même avoir l'élégance de parler quand tu parles au micro. Hein, parce que tu parles dire n'importe quoi. Les micros, il faut respecter ce que tu dis. Les gens, vous ne pas vous ridiculiser devant les gens. Quand vous dites nomination, élection, ça, ce sont des apprenants de langage du PPRD. On n'est plus dans les autres. C'est terminé cette histoire. Nous sommes maintenant dans les pays de l'UDPS et alliés. Donc, on est dans une autre. Madame, laissez ça. Mais on fait des bêtises.
Aimez.
En tant que député,
il a
fait des actions. Tu es dans quoi, finalement?
D'accord.
Comme avec
Jean-Baptiste.
Non. Je vais d'abord remettre une dame en ordre. Parce que là, vous avez besoin de gens. Écoutez.
S'il vous plaît.
En tant que réalisation, parce qu'elle a posé la question, on a réalisé des
choses. Par rapport aux routes.
Oui, oui. Non.
À la route de.
Je vais y arriver.
Oui.
J'y arrive.
J'ai tous les arguments pour défendre ce qu'elle est en train de dire ici. Moi, j'ai tous les arguments. C'est pas toi qui me pose la question.
Voilà.
Tu comprends?
Ouais.
Est-ce que tu sais débattre au micro avec des gens civilisés?
S'il plaît, s'il plaît.
Ah, écoutez, calme. Écoutez, c'est moi qui ai les micros. Oui. Laissez-moi terminer calmement. Et tu n'as pas besoin de me poser la question.
Allez...
C'est à ce qu'il y a la police de débat. C'est comme ça qu'on gère une émission civilisée. Tu comprends? Mmh. Alors, écoutez, moi je ne m'énerve pas, je suis calme.
Mais oui,
c'est comme ça qu'on fait le débat. Mais tu sais comment on fait un débat.
Oui,
sois calme, qu'est-ce que tu
fais? Mais ce n'est pas toi qui parles. Moi, tu racontes des bêtises.
S'il vous plaît,
écoutez, c'est ça ta stratégie. Tu vas m'énerver au micro. Tu vas perdre ton temps inutilement. Je maîtrise le micro.
Voilà.
Écoutez, laissez ces gens de Mundougou. Les gens de Mundougou, si je parle, il faut dire aux gens la vérité.
Badera,
mais ça me distrait. Écoutez. Quand Aimé Ouattara était député, parce qu'il a été élu à Walloum, c'était dans l'année 2006, je crois, les premières élections. Il y a des réalisations qui ont été faites à Kamagnola, des écoles, à Kamisimbi, des écoles, à Ikoma, des écoles, c'est prouvé. Ces écoles existent encore, à Kamisimbi, à Ikoma, à Kamagnola, ces écoles existent. Ça existe. Ce n'est pas que je suis en train de raconter des bêtises. Parce que toute la vérité n'est pas exacte. Mais je n'ai pas d'exactitude ici. Ce sont des faits scientifiques. C'est-à-dire, toi tu ne connais pas. Il y a une école vers Campoussé là-bas. Tu l'as construit. Moi, non, toi, tais-toi. Tu ne sais rien.
Je
raconte des faits. Les faits sont sacrés.
Tu ne peux pas mentir et moi, je
vais te dire. Mais toi, tu n'as pas
de mouche. Il n'a pas
construit. Ce qui nous intéresse, est-ce que vous impliquez dans le plaidoyer pour le chef
de l'État? Laissez-moi terminer. C'est toi, tu ne peux pas n'importe quoi. Laissez-moi terminer le débat. Écoutez, après ça, il a été encore élu en 2011. En 2011, il n'a pas été élu. Il a été élu en 2011, n'est-ce pas? Il a amélioré ce qu'il a fait à Kamagnola, ce qu'il a fait à Kamisimbi, ce qu'il a fait à Yom, ce qu'il a fait à Ikom. Maintenant, là, vous savez ce qu'il y a comme projet de développement. Vous avez vu des photos. Il y avait la radio Mandé qui nous accompagne. C'est Ricky qui est allé avec Aimé Bozi en 2011 et en 2006. Ricky Ombeni. Mandela était là pour aller voir les actions, pour aller inaugurer les actions, les projets. Mandela était toujours là, présente. Moi, j'étais encore ici comme secrétaire de rédaction. J'ai voyé tout ça, on envoyait des gens et tout passait ici. Et quand ce n'est pas un journaliste à la radio, on avait des correspondants qui faisaient révéler. Donc ça existe. Les faits sont sacrés. Je n'ai pas entré dans les débats. Oui, les faits sont sacrés. C'est ça, je raconte des faits. Maintenant, présentement ici, vous avez suivi tout ce qu'on a fait depuis 2021 à Walloum. Il y a le projet Grâce de Marie Nyangezi. C'est passé. Tout le monde va à Nyangezi, va voir ça.
Oui,
il y a l'école construite à Nyangezi. Il y a l'école construite à Tchérano. Il y a l'hôpital construite à Velbourale là-bas. Il y a la mini centrale qui est construite à côté de Irongo là-bas, qui va alimenter près de 7 groupements. Hein? Il y a le projet d'éclairage public à Walloum. Il y en a, ça existe. Par rapport au plaidoyer que vous parlez de route ici, le plaidoyer existe. Les projets qui sont en train de commencer, mais qui traînent malheureusement, qui va commencer par le lycée Wima, c'est Bozi qui a fait ce plaidoyer pour que ça existe. Ce projet, c'est lui qui a fait ce plaidoyer pour que ça commence, ça puisse même
avoir un
début. Les matériaux sont là. Ce n'est pas pour dire que maintenant, vous pouvez prendre une roue pour commencer à faire. Mais le projet est là. Le projet pour construire la route qui va vers, mais aujourd'hui chez toi, à Luro, ça va là-bas. C'est comment j'ai dit, j'essaie de parler. Moi, je vais vous montrer les plaidoyers qu'il fait. Le projet qu'il va chez lui maintenant, aujourd'hui, ça évolue jusqu'à lui. Ça va jusqu'à Kinyezire, donc ça va aller jusqu'à l'entrée du parc national de Kaouzi Biega. L'autre va à Nyangezi. C'est un projet, c'est même depuis le PPRD, mais il n'y a pas de suivi avec le projet des Chinois. C'est maintenant pour eux qui est venu faire le plaidoyer ici, pour que ça évolue. Bozi aussi a fait ça. Il y a ses projets. Mais s'il n'y a pas de suivi, qu'est-ce que Bozi va venir faire? Il a ses projets avec la première dame.
Voilà.
Au-delà de ça, moi j'étais à Washington, à la Banque mondiale. Il y a l'argent qui est là pour la route Mujima et Bukavu. Alors si ce n'est pas suivi, qu'est-ce que vous êtes la société civile? Allez demander, enquêter. Mais il était à Washington, j'étais là avec lui.
Merci
Jean-Baptiste. Pour vous dire, je termine par là, je dois partir, je termine par vous dire, il y aura un débat sur ça. Ouais. Je reviendrai, ne vous en faites pas, monsieur. Je vais venir pour ça, mais c'est ça le plaidoyer. Si vous voulez, ce plaidoyer existe et Bozi le fait très très bien.
Merci Jean-Baptiste.
Et il continue à le faire encore. Banque mondiale, Mujima et Bukavu, ça va donc passer par Kasongo, Mwenga, ça arrive jusqu'à Bukavu.
D'accord.
Ce projet existe. Même le chef de l'État en a parlé.
Voilà.
Que, si la route n'a pas existé à Bourral et Chabunda, et c'est la faute à Bodja.
Ouais, voilà. Hein?
Faut pas mais au moins, je vous dis la vérité.
Faut pas que l'on réduise
l'action de la mais au moins, soyez content d'avoir votre dans le gouvernement. C'est ce qui est important.
Ouais, voilà.
Mais ne cherchez pas, oh non, il y a ceci, parce que vous avez vu Badéra là-bas, parce que Bodji. Non, ne cherchez pas ça.
Merci Jean-Baptiste.
Restez positif, mes frères, et bon dimanche, soyez calme.
Merci.
Je vous souhaite déjà joyeux Noël, bonne fin de l'année, et continuez à prier pour nos autorités. C'est ça.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, je disais que.
Merci Thaïs. Faut pas me libérer ou
j'ai. Oui. Non, je voulais dire ceci. En concluant que font pas qu'elles réduisent les actions du gouvernement à un seul individu, mais Bodji, il est membre du gouvernement et je crois que cette route de Walungu c'était une promesse.
Il n'est pas le seul.
Oui, c'était une promesse du chef de l'État. La détérioration des infrastructures. Il y a d'ailleurs une motion, je crois, contre le ministre Guissaro. C'est lui le ministre des infrastructures.
Scientifique, c'est cabale.
Ça signifie qu'il y a l'action gouvernementale qu'ils ne font pas vraiment réduire à un seul individu. Le gouvernement, c'est tout un corps. Et je crois que les bilans aussi, ils pourront les partager, mais toutes les autorités, que ce soit au niveau provincial, au niveau national, sont en train de faire le plaidoyer pour que cette route soit réhabilitée. Il y a même le député Trésor Moutiki qui est intervenu à l'Assemblée nationale pour
plaider. Vous avez fait son intervention.
Oui, parce que la route ne va pas seulement à Walungu, ça va jusque dans les territoires de Mwenga, donc ça nous intéresse. Et voilà. Et donc, ne soyons pas irrités.
Non, mais au moins j'ai précisé qu'il y a ce plaidoyer
qui
est fait au niveau international et au niveau national.
Tout à fait.
Et ça a été mené par Aimé Bodji-Sanga.
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci Jean-Baptiste, bon dimanche.
Merci à vous aussi, mille fois merci de nous avoir invités et plein succès dans vos entreprises.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Vadera. Voilà, nous allons revenir sur, nous allons parler de cette soirée Awards. Cette invitation dans le cadre de son projet Ouachouja, lequel projet vise à promouvoir, à encourager et surtout à primer les leaders émergents dans leurs différents secteurs d'activité en vue de susciter un esprit d'émulation au sein de la société civile congolaise. La société civile rénovée de la République démocratique du Congo vous convie cordialement à rehausser de votre présence la première édition des cérémonies de remise des prix honorifiques au cours d'une soirée RDC Awards SCR. L'activité se déroule aujourd'hui à partir de 16h au restaurant Bodega de l'hôtel New Residence, donc c'est au restaurant Bodega de l'hôtel Residence, 6 avenue boulevard Patrice Emery Lumumba, en face de la résidence privée de l'ancien gouverneur du Kivu, Gilles Kembo Alomona. Tenue des villes exigées, Landry Bigabwa, qui est le team leader de la société civile rénovée. Voilà, Amani Lomba, vous êtes au courant de cette activité?
Oui, merci Thaïs. Le projet Ouachouja, c'est un programme de la société civile rénovée qui consiste à pouvoir primer. Vous savez que, comme on le disait tantôt, il faut Kusema Mazuri ya Mutuangali Muzima. Et les gens qui se sont démarqués dans certains aspects des intérêts généraux de la population ont été sélectionnés par ce prix Ouachouja, afin qu'on puisse démontrer au public qui sont ces personnalités et qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils font pour la population. La soirée en elle-même sera colorée par des personnalités de la ville de Bukavu et la province du Sud-Kivu qui se sont distingués dans les œuvres sociales, de développement, le plaidoyer, la défense des droits humains, etc. C'est dans ce cadre-là que la société civile rénovée a programmé de remettre ces prix ou ces médailles à ces personnalités qui étaient sélectionnées. Nous ne pensons pas que ça peut susciter débat parce que les critères sont tels qu'il faut s'être démarqué pour cette année 2024 dans tel ou tel domaine. On n'a pas été partial on n'a pas été colonistes, afin qu'on puisse trouver cette personnalité-là. Mm-hmm. Et c'est à cela la question qui va nous intéresser cette soirée d'aujourd'hui.
Merci beaucoup. Et donc, l'activité commence à 16h au restaurant Bodega de l'hôtel Résidence. C'est dans la commune d'Ibanda. Nous allons donner la parole à Blaise Maseka pour nous parler de son parti politique. Également, nous allons donner la parole à Madame Roubouye pour nous parler un peu du PPRD. L'actualité, s'il y en a, et s'il n'en a pas, nous allons commencer dans quelques instants notre sujet du jour. Blaise Maseka, bonjour.
Bonjour Thaïs, et merci à Radio Mandeléo qui accompagne le FPCN dans toute son entreprise politique. Vous verrez de me donner une occasion de me prononcer sur les activités de mon parti. Je vais dire que le FPCN de l'honorable Claude Nyamugabo, c'est parmi les rares partis politiques qui ont survécu après les élections de 2023. Vous allez voir que nombreux partis qui disent avoir des choix politiques ne se font plus entendre.
Ils ont disparu.
Ils ont disparu. Disons-nous vrai. Mais le FPCN, il est sur terrain. D'ailleurs, la semaine passée, nous avions célébré notre deuxième anniversaire. J'insiste, nous n'avons que deux ans d'existence. Mais nous faisons peur à des grandes formations politiques. Un besoin de deux ans qui fait peur à des grands vieillards, des gérontocrates. Nous avons fêté deux ans d'anniversaire. Nous avons commencé par une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Puis nous avons chuté par une matinée politique dans une salle Concordia qui a craché du monde. Les images existent. Nous avons parlé du bilan du parti. Il est positif. Au-delà des injustices politiques dont nous avons été victimes, nous n'avons pas accepté de nous faire écraser. Nous vivons, nous survivrons. Et je pense qu'au-delà de ça, nous allons parler aussi de l'actualité politique du moment. Vous savez que mon parti, il s'assume, nous sommes de l'Union Sacrée, nous allons en parler. Nous avons été parmi les premiers, si pas les tout premiers, après l'IDEPES, de s'être exprimés dans notre plateforme d'abord, qui est le FPAI, les forces politiques et sociales alliées à l'IDEPES Tshisekedi. Nous avons dit que nous soutenions la vision du chef de l'État, qui est la plus haute autorité politique de référence de l'Union Sacrée. Ne pas le faire frise de ce qu'on appelle l'indiscipline et la déloyauté. On va en parler à l'eau et à l'âge, mais on ne peut pas être de l'Union Sacrée et ne pas être dans la vision de celui qui anime l'Union Sacrée. Nous avons aussi dit, peut-être là je vais frôler le sujet, mais je parle de l'actualité, hier même. D'ailleurs, quand je revenais de là où j'étais, je fais un petit crochet chez Biega Terrasse. J'étais à Chirunga hier, dans les cabarets centres, où nous avions inauguré officiellement nos bureaux. Parce que pour le FPCN, quand on dit que le parti existe, on doit avoir des installations, on doit avoir aussi des animateurs. J'ai installé le comité sectionnaire des cabarets centres, qui reprend quatre groupements, Chirunga, Kagabi, Bushwira et Bugore. Donc, le parti se porte très bien et les indicateurs qui prouvent que le FPCN, dans un avenir très proche, sera parmi les grandes formations politiques sont là, ce sont des faits. Et nous pensons que pour être grand, il faut redynamiser le parti, l'installer. Et au niveau national, je dois rappeler qu'à des ans d'existence, nous sommes dans 13 provinces.
D'accord.
Nous avons des sièges, nous avons des comités fédéraux et nous allons nous installer jusque dans les familles parce que pour nous, la famille, c'est la cellule mère du parti.
D'accord. Merci beaucoup, Dodo Moussemé. Vous êtes de l'UDPS, vous êtes à la Bangeoire, il n'y a pas de problème.
Mais non, écoutez,
D'accord, comme un figue.
Non, un parti politique reste un parti politique. D'ailleurs, comme le disait, que chaque institution sociale porte en soi les germes de ses propres conflits. Et nous, nous n'évitons pas. Oui, c'est ça.
C'est la vie.
Chaque institution sociale porte en soi ses germes de ses propres conflits. Et nous, nous sommes un parti où nous avions longtemps vécu à l'opposition, où la parole est libre. Et par conséquent, tout le monde parle et pense et dit ce qu'il pense. Mm-hmm. Et voilà qu'aujourd'hui, on se retrouve à Kinshasa avec une petite situation où il y a des gens qui disent non, toi tu ne mérites pas et toi l'autre. Bon. Mm-hmm. Mais malgré tout cela, les partis restent calmes. On est là. Donc, on est là. On se prépare à 2028. On se prépare à la révision et le changement de la Constitution. Et tous les états-majors sont disposés. Hier, d'ailleurs, l'honorable Patrick Saloum, nous avions été avec lui au collège où nous avions parlé encore sur la question. Donc, nous nous attelons sur ça aujourd'hui parce que nous devrions, les jours que l'IDP quittera le pouvoir, nous devrions laisser au pays un arsenal juridique permettant très bien son développement.
D'accord. Merci beaucoup. Maman Yvette Roubouye, au PPRD, ça va?
Oui, au PPRD, ça va très bien. Contrairement à ce que je suis en train d'écouter de plusieurs bouches ici, déclarant tout que le PPRD a disparu. Moi, je me pose la question, tous ces gens qui ont créé leur parti politique sont venus du PPRD, et c'est le PPRD qui les a encadrés. Même l'argent qu'ils sont entrés de faire tourner son disant qu'ils ont installé des partis par-ci, par-là, la base réelle de ces fonds-là, c'est du PPRD. Jusqu'aujourd'hui, il y a même tant de biens du PPRD qui étaient là au temps de campagne électorale la fois passée et qui continuent à avoir. Donc, pour moi, tout ce que je peux dire pour l'état du PPRD, le PPRD est en bonne santé. Vous êtes en train de l'écouter, je crois, au niveau national, qui au niveau des autres provinces, à Lubumbashi et ailleurs. Le PPRD est en pleine activité de sensibilisation, de mobilisation pour encourager ses membres, pour accompagner ses membres à rester fidèles pendant ces temps de l'opposition. Et en province du Sud-Kivu, nous continuons à travailler. Nous avons effectué des tournées par-ci, par-là, dans les proximités, pour voir comment l'État de notre parti était et l'état de la santé de notre parti est vraiment en avance. C'était nous-mêmes, si nous avons dit quelque part que nous puissions d'abord observer et regarder, parce qu'on a senti qu'il y avait plusieurs des assoiffés qui étaient là en train de chercher comment courir le pouvoir en place, comme vous venez de le dire vous-même. C'est clair, on ne peut pas refuser à quelqu'un qui cherche les intérêts d'aller courir derrière tel ou un autre parti. Il est libre de se choisir le parti. Mais nous autres, nous sommes restés fidèles à notre cher parti PPRD. Et notre programme, c'est de continuer à faire nos tournées dans le cas de renforcer les capacités, mais aussi à fidéliser davantage nos membres et ceux qui sont en train de venir aussi pour adhérer. Nous pouvons vous informer ici qu'à partir même de ce que nous avons effectué avant-hier, il y a eu tant de demandes, des adhésions qui sont là, parce que plusieurs personnes voulaient d'abord écouter quelle a été la position du PPRD dans tout ce qui se passe, vu que pour plusieurs, ils disent que l'autorité morale ne parle pas, mais ils savent par quelle voie ils passent toujours pour parler. Et nous sommes là entre eux de faire des adhésions, et nous continuerons toujours à les renforcer davantage dans les territoires, où bientôt aussi ils vont passer aussi à cette déclaration que nous avons effectuée avec les forces politiques et sociales de l'opposition. D'ici là, dans les 8 territoires, nos membres, nos bureaux pourront aussi passer à cette déclaration.
D'accord, félicitations madame, courage, font pas vous décourager malgré les dires des gens. Hein. Le PPRD, en tout cas, je suis journaliste, je sais ce que j'ai dit, c'est un grand parti qui a créé des cadres, comme vous l'avez dit. Hein. Je veux vous rappeler que le PPRD a été le premier parti à avoir rempli la salle Mater Dei. À l'époque, c'était plein à craquer. C'était à l'époque de... Il s'appelait Toussaint Chilombo Sainte. Je me rappelle encore de cette journée là-bas Mukubagani occupait le poste que vous occupez aujourd'hui. Je me rappelle de grands mobilisateurs comme Deo Kourassa. Deo Kourassa existe encore ou fait perdre?
Non. Ah, il est parti à l'Inde.
Voilà, c'est tout parmi.
Après avoir
passé. Ah, voilà.
Après être passé par l'Inde.
Voilà.
Je dois rester fidèle parce que je ne suis pas allé chercher
les amis. J'ai vu le PPRD mobilisé. Il y avait un jour une marche ici. Alors que le premier groupe se trouvait à Niawera, non, le dernier groupe se trouvait à Niawera, le premier groupe était déjà resté à Nyamoma. C'était une grande manifestation, voilà. Tous ceux qui font du bruit, madame, ici, devant le micro, ils sont venus de chez vous.
Oui. Merci beaucoup, Thaïs, de le reconnaître.
Vous devez vous sentir fier d'avoir créé de cadre,
hein. Ouais.
Et ne vous en faites pas, 2028.
Fier et pas jaloux.
Oui, j'ai vu des gens, les gens.
Je ne suis pas jaloux, ne t'en fais pas.
Je vois des gens en train de se rappeler de Joseph Kabila Kabange, et les gens qui disent, Wakati ya Kabila, tu crois, tu n'as pas. Voilà. Tenez bon, madame.
Merci beaucoup.
La population, le pays a encore besoin de vous. Voilà. Amani Lamba, vous êtes.
L'opposition est républicaine.
Voilà.
Merci beaucoup. Je suis parlementaire citoyen, membre du Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance. Nous sommes une association sans but lucratif des défenseurs des droits humains. Nous ne sommes pas un parti politique. Entre-temps, comme Blaise voulait le savoir, c'est une société civile ou pas. Nous sommes une branche de la société civile. Pour rénover. Nous sommes dans la grande plateforme de l'Union nationale des cadres investisseurs congolais pour le développement. C'est notre filière. Quant à nos activités ou à notre vie, le Parlement citoyen venait de lancer une campagne dite thermomètre d'évaluation à mi-parcours de nos élus, qui est une campagne que chaque électeur puisse donner son point de vue sur les députés qu'il avait élus, pour qui il avait élu. Parce que nous sommes en train de constater qu'il y a des députés qui sont devenus absentéistes à des assemblées, à des plénières. Il y a des députés qui sont devenus boubous. Ils ne parlent ni en commission ni en plénière. Il y a des députés qui n'ont pas de bureau politique. Ils continuent à recevoir des jardins d'Nganda, ce qui est un caractère qui ne fisse pas l'honorabilité. Il y a des députés qui ont disparu même de leur base et voire même de leur famille. Et nous laissons l'occasion à la population de donner déjà un bilan. D'ailleurs, je vis les amis de Calais et ont imprimé même des bulletins. Des bulletins pour côté. Chaque œuvre, chaque. J'ai vu des députés qui sont en train de s'ingérer dans les réseaux sociaux, ce qui ne reflète pas le caractère d'honorabilité. Et nous devons nous dire, est-ce que nous avions élu, nous sommes régulièrement représentés. Ça, c'est le Parlement citoyen. Deuxième aspect, le Parlement citoyen, dans sa filière juridique, est en train de réfléchir sur une proposition d'une loi particulière qui protège le travailleur domestique. Vous savez, les travailleurs domestiques aujourd'hui, c'est une couche de travailleurs informels qui sont devenus. D'ailleurs, tous nous avons des domestiques chez nous. Mais comment nous traitons ces domestiques? Comment ils sont protégés? Parce que notre code du travail congolais a fait abstraction à cette catégorie de travailleurs. Et pourtant, la Constitution, l'article 36, quoi que nous sommes en train de vouloir réviser, a fait mention que le droit du travail est garanti à tout citoyen et à toute catégorie. Mais aussi, la RDC étant membre de l'Organisation internationale du travail, s'est abstenu volontairement de ne pas ratifier la convention 189 portant travail décent à tout travailleur domestique. Et pourtant, d'autres accords, d'autres conventions, plus de 36 conventions, ont été régulièrement ratifiées par la RDC. Et nous avons estimé que nous, comme parlementaires citoyens, nous allons porter la loi au niveau de l'Assemblée nationale, on va la faire endosser une certaine catégorie de députés que nous estimons qu'ils Banapenda Karaïa, pour qu'ils puissent la présenter au niveau de l'Assemblée nationale déjà l'année prochaine pour une loi portant statut particulier de travailleurs domestiques en RDC. En fait, de les épargner des habits dont ils sont victimes. C'est ça un peu la situation actuelle du Parlement citoyen en RDC.
Merci beaucoup, Maître Amani Lamba. Blaise Maseka, vous vouliez parler une minute avant que l'on aborde le sujet du jour?
Moi, juste une minute. C'est juste. Je voulais qu'on apaise les débats d'aujourd'hui. J'en appelle à la sagesse de madame du PPRD. Vous savez, absolument. Je n'ai jamais été au PPRD et je ne le regrette pas.
Ton autorité morale est
oui,
plus
jeune. Effectivement, c'est ce que je voulais te dire.
Et pour ça, il faut respecter le PPRD.
En fait, nous, on attaque le FPC, nous respectons tout le monde. Mm-hmm. On ne devrait pas attaquer un parti politique, ni le parcours d'un autre acteur politique. Ceux qui ont été au PPRD avec vous, ils sont connus. Et à un certain moment, chacun est libre de voir. Parce que pour moi, Thaïs, tout ce que madame est en train de dire ici, ça n'engage qu'elle, parce que de quel droit elle dit tout ça au nom du PPRD, alors que son initiateur lui-même est devenu à faune, il ne se prononce pas, il ne dit rien.
Non, non, mais
jamais. Elle mal connaître Blaise Masseka.
Mais pourquoi tu te souviens?
Et si elle veut qu'on aille dans une posture offensive, défensive, je suis prêt.
Voilà, mais, coup.
Le coup sur coup. Donc, moi,
vous avez dit que le parti politique qui était fort, mais qui est devenu faible.
Et vous,
tu l'as attaqué?
S'il vous plaît.
Je vous arrache la parole.
Ne prenez la parole que lorsque je vous la donne, s'il vous plaît. Je voulais dire à Blaise Masseka qu'il a étudié à l'ISP. Il n'a jamais nié ça. Voilà. Quand on a été au PPRD, bon, d'accepter qu'on
ait
été au
PPRD. Chacun a son parti.
Non, elle est là pour parler de l'autorité morale de votre parti, ce qui n'est pas faux.
On assume voilà. Notre passé.
Voilà.
Mais nous ne sommes plus avec eux.
Merci beaucoup.
C'est de notre droit.
D'accord. Maman Néné.
Oui, pour la société civile, ici tu es. La société civile se porte aussi bien parce que vous avez demandé les nouvelles des partis politiques. Nous aussi nous portons bien, sauf il y a quelques problèmes, comme celui qu'on est en train de vivre encore au marché de Niawera avec les comités syndicaux. On espère qu'on va trouver une solution. Comme aussi nous avons en charge les plaidoyers, je voulais vraiment, à travers ce micro, dénoncer les calvaires que traversent les agents de l'État qui sont en train d'être enregistrés à l'auditorium de la femme. Il y en a qui sont venus des territoires qui ne sont pas pris en priorité, qui ne sont pas identifiés en priorité. On parle aussi du monnayage. Ils passent la nuit à la belle étoile, donc à la belle étoile, certains qui n'ont pas de famille ici. Il y en a même qui passent toute la journée sous le soleil. Et donc vraiment, j'en appelle à la commission d'être vraiment une commission humanisée, humaine, de laisser les monnayages de cette opération. On parle de 10 à 20 dollars. Pourtant, c'est une opération en faveur de... On doit quand même connaître les effectifs, on doit identifier, on a salué la commission, mais on doit éviter de monnayer cette activité-là. Il y a également, on a assisté au bouclage dans la ville, en fin d'année. C'est bien que l'État, nous encourageons toujours que l'État puisse avoir les recettes, mais en tout cas, les bouclages en fin de l'année, quand on prépare les festivités, ce n'est pas approprié. Donc, je voudrais vraiment solliciter à nos autorités de donner encore une chance aux taximens, aux motards, aux conducteurs de manière générale, de chercher leurs documents, parce que nous les encourageons à les faire, mais aussi de laisser quand même les gens circuler, bien fêter, malgré les problèmes qu'on a.
Non,
nous encourageons qu'ils puissent avoir des documents, qu'ils paient les taxes. On doit payer les taxes, c'est ça la citoyenneté responsable. Mm-hmm. Mais il y a des périodes où quand même le recouvrement n'est pas vraiment approprié, qu'on leur donne un peu de temps pour se mettre en ordre, juste le temps de fêter, et puis après on va y revenir. Et à la fin, nous encourageons la foire culturelle du Bushi qui va être clôturée aujourd'hui à Kavumu. La culture, c'est l'âme d'un peuple. Et je pense que c'était une bonne initiative. On a vu les images. Je pense qu'on pourra aussi être là pour quelques minutes. Ce sont des activités également de la société civile que nous encourageons.
D'accord. Voilà. Nous allons encourager et dire félicitations aux députés provinciaux et au gouvernement provincial, parce qu'en fin de compte, nous avons un budget et les projets portant édit budgétaire de la province du Sud-Kivu pour l'exercice 2025 et le budget rectificatif 2024 sont jugés recevables avec amendement et seront envoyés à la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale pour une étude approfondie. L'adoption de ce budget est intervenue le vendredi 6 décembre 2024. Ce budget de la province du Sud-Kivu s'élève à plus de 783 milliards de francs congolais. Il a été défendu le vendredi donc par le gouverneur de province Jean-Jacques Purusi-Sadiki à l'Assemblée provinciale. Comparé à celui de l'année passée, il se dégage une légère augmentation, indique le ministre provincial du budget Kasaza Nyamalyongo Museven. Il fait savoir que le gouvernement provincial compte sur les ressources internes et la rétrocession du gouvernement central pour mobiliser les recettes nécessaires à la mise en œuvre de ce budget dans la province. Dans leurs interventions, les députés provinciaux ont apprécié le budget et les jugé excellent malgré quelques imperfections. C'est notamment la non-prise en compte des émoluments et fonctionnaires des conseillers communaux, comme l'avait indiqué la circulaire du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Aussi, les députés provinciaux ont jugé le budget des discriminatoires qui ne se concentrent que dans quelques territoires de la province du Sud-Kivu, en oubliant d'autres coins. Les députés ont ainsi souhaité voir être incorporés dans le budget les montants prévus pour la prise en charge des enseignants des écoles primaires nouvellement des nouvelles unités et non payées en province du Sud-Kivu. Pour sa part, le gouverneur de province, Jean-Jacques Purusi, s'est dit déterminé à fournir des efforts, notamment en ce qui concerne la mobilisation des recettes locales constituées des impôts et taxes dits à la province pour la reconstruction, pour sa reconstruction, tout en indiquant que les recommandations formulées seront prises en compte et qu'aucun territoire ne sera en tout cas avantagé par rapport à l'autre. Il souhaite la mise en place d'une commission pour revoir la nomenclature des taxes en province du Sud-Kivu. Après un moment de réponse, le projet portant édit budgétaire pour l'exercice 2025 et le budget rectificatif 2024 ont été jugés recevables par les députés et provinciaux. Sentiment donc de satisfaction pour l'autorité provinciale et pour les députés. Disons que ce budget vient d'être voté après environ 3 ans que cet exercice n'a pas été effectif dans la province du Sud-Kivu. Et donc, il est temps que vraiment, député dans le gouvernement provincial, tumike sasa, pour que tuangalie kama tutatoka chini, surtout kwa kuweza kueneza ile budget, comme on le disait la fois passée, il se pose un problème de mobilisation des recettes dans la province du Sud-Kivu. Et ces jours-là, dans l'émission, on avait dit que on a constaté que les services de l'État n'aidaient pas l'État à mobiliser les recettes et que si c'était possible de revenir sur des partenariats publics-privés, mais y aller avec justement beaucoup de stratégies qui permettent à ce que l'argent mobilisé puisse rentrer dans les caisses de l'État. C'est vrai, quand on parle de cette question, on a tendance à pouvoir critiquer, mais et l'État n'a pas de choix, le gouvernement provincial, que de recourir à ce mode de mobiliser les recettes pour que l'enveloppe soit pleine et que les travaux de développement commencent. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas en tout cas bien juger le gouvernement provincial, parce que le budget qui est en train d'être exécuté aujourd'hui, c'est un budget qui n'a jamais été voté d'ailleurs par l'Assemblée provinciale. C'est un budget à sens unique, et voilà, qui a eu beaucoup d'imperfections et on a été obligé de l'utiliser comme ça. Mais malheureusement, rien n'a été vu comme projet de développement. Nous espérons que si cette fois-là, la mobilisation des recettes est effective, hein, on va voir, surtout que on sent que quand l'autorité provinciale parle, on sent que c'est un homme de bonne volonté qui a cette intention de pouvoir améliorer. On va voir, et on va voir, c'est justement à travers le budget, parce que rien ne peut se faire. Wakati hakuna pesa mu province, hatuwezi prekonize kama tutaona maendeleo mu jimbo letu la Sud Kivu. Que nous soyons aussi des bons citoyens, que nous soyons des bons citoyens en payant nos taxes. Et la fois passée, nous étions en train de dire par rapport à l'impôt foncier et à l'impôt sur le revenu locatif, on a dit qu'il faut en tout cas associer les services de statistiques pour maîtriser d'abord les maisons qui sont à Bukavu, dans chaque avenue, dans chaque quartier, dans chaque commune, pour espérer avoir de l'argent, parce que c'est de l'argent qui reste dans les poches des gens. On ne sait pas en tout cas mobiliser des recettes si on ne maîtrise pas les gens qui sont sur les avenues, font pas que la perception de l'impôt foncier soit sélective, hein, à certains individus. Il faut que tout le monde sur l'avenue puisse payer son impôt foncier. Et si on a des locataires, on paye l'impôt sur les revenus locatifs. Malheureusement, l'État ne s'organise pas et pleure chaque jour. Pourtant, et c'est pourquoi les privés peuvent, en tout cas la société civile, peuvent aider l'État à pouvoir identifier la population et pouvoir voir comment on peut mobiliser les recettes. Maman Néné, je vous ai vu, vous vouliez parler.
Oui, justement, le jour qu'on a, le gouverneur a présenté les budgets, j'étais aussi à l'Assemblée provinciale, j'ai tout suivi, parce que c'est ça aussi la responsabilité de la société civile, de suivre ce qui se passe. On a même un groupe technique à la société civile, qui est un groupe thématique suivi budgétaire. Donc nous allons aussi demander qu'on puisse avoir une copie de budget et formuler aussi nos propositions par rapport à cette question, parce qu'il y a des normes, il y a des standards qu'on doit retrouver dans un budget. Par exemple, pour la question de santé, c'est entre 10 et 15%. L'éducation, on a vu que on n'a pas suffisamment mis beaucoup de paquets là-dedans. Et je rappelle que nous, de la société civile, on a déjà soumis un projet dédié pour portant les frais innovants pour l'éducation, et on pensait que c'est un édit qui allait être examiné en priorité, mais jusque là c'est pas encore fait. Donc j'en appelle vraiment au bureau de pouvoir examiner cela en toute urgence. Mais avant ça, le gouverneur des provinces également avait promis aux enseignants non payés de l'école primaire une somme de 50 000 francs. C'est vraiment dérisoire, mais au moins qu'ils puissent en avoir. Donc ce sont des problèmes qu'on cesse de rappeler. Mais j'ai vu aussi que pour les budgets, c'est vraiment un budget qui suscite de l'espoir. C'est la première fois qu'on projette pour un tel montant. 758 milliards de francs, c'est, je crois, environ 5 millions de dollars. Parce qu'on a 200 millions de dollars, oui. On a toujours été dans les... Ça a toujours été moins que ça. 758 000 francs. 783 milliards de francs congolais. Et donc, mais le problème, c'est que plus de 50% c'est attendu au niveau national. Et on connaît qu'il y a des problèmes de rétrocession. On a même fait des commentaires quand il y a eu la conférence des gouverneurs à Kalemie. Si on accepte vraiment, on respecte les principes de la retenue à la source de 40%, ça va marcher. Et récemment, quand on était à Kinshasa pour le plaidoyer, on est passé au ministère des budgets, on a rappelé que les provinces, bon, comme on est dans le régime de rétrocession, doit en avoir. Et j'ai appris qu'on a envoyé la rétrocession pour les trois derniers mois. Mais il faut une gestion rigoureuse également des fonds de l'État pour que ça puisse servir tout le monde. Vous avez aussi parlé de maîtriser les effectifs par rapport à l'impôt foncier. Bon, je pense que mon ami à côté qui a travaillé à la DPMR peut nous dire comment ça se passe.
mais c'est des impôts qui sont payés.
Les agents de la DPR sont en difficulté parce que justement, il n'y a pas de statistiques.
Oui, les statistiques font défaut. Mais j'avais vu, quand je faisais les masters à l'IEA en environnement, il y a un professeur qui avait proposé, le prof Katcho, je crois, avait proposé un outil à l'État pour faire la géolocalisation de toutes les maisons. Mais souvent, les scientifiques ne sont pas encouragés, associés à, quand on fait des choses comme ça. Je pense qu'il peut encore être disponible à donner cet outil. Parce que je vois que c'est de l'impôt qui est recouvré. Oui. Moi-même, je vois les gens de la DPMR arriver chez moi et je paye souvent cet impôt. Et donc,
c'est ça. Il s'arrête à des personnes de bonne volonté.
Oui, peut-être on paye à
Mais les gros ne payent pas l'impôt.
Mais c'est ça le problème. Volonté. Les gros ne payent pas, ce sont, je ne sais pas combien payent à Moumba, Angouba, Anyaouera, je ne sais pas. Ce sont des difficultés, mais comme vous parlez de recensement, il y a une structure de la société civile aussi qui a offert son expertise à l'État congolais. C'est la commission diocésaine justice et paix. J'ai travaillé pour cette commission pendant 7 ans. La semaine passée, j'ai suivi une activité importante où on a formé les chefs d'avenue, les bourgmestres qui étaient là pour l'identification des personnes. Parce que c'est difficile que l'État puisse bien planifier si on n'a pas les statistiques. Donc les recensements, on ne les fait pas. On ne connaît pas la commune d'Ibanda compte combien d'habitants, la commune de toute la ville, on ne sait pas. On fait des spéculations.
Même sur une avenue, sur un quartier, on ne sait pas.
Même dans un quartier, on ne connaît pas. Peut-être les Nyumbakoumi aussi, vous pouvez lui demander. Les Nyumbakoumi, c'est combien d'habitants, il ne connaît pas. Donc c'est vraiment un danger, même si les plans sécuritaires, les gens entrent, ils quittent. C'est déjà une contribution de la société civile à travers la commission de
cette année. J'espère que.
Mais malheureusement, on est en train de voir.
Le budget également, le
ministre de la finance. Autrement, ok, moi, c'est ça, on est en train de récolter les signatures pour la révision constitutionnelle. Je ne pense pas que c'est le cas. Donc, c'est une initiative qu'on a encouragée et on espère qu'à la fin de cette opération, on aura une idée sur les nombres.
Mais je crois que dans
les territoires,
dans certaines communes, on sait quand même avoir des statistiques. Je vois que chez nous, par exemple, à Bagira, toutes les maisons portent les numéros. Donc on sait avoir quand même identifié les gens, ne fût-ce que pour la commune de Bagira. On devait les utiliser justement.
S'ils étaient motivés.
Je crois que les autorités qui sont en train de nous suivre,
ils sont pas payés les cadres de base.
Vont comprendre justement que c'est bien bon, on a voté le budget, mais il faut en tout cas que l'on travaille ensemble et ne font pas écarter, même si tout le monde n'est pas à la mangeoire. Mais chercher d'autres experts, des expertises ailleurs, pour arriver justement à mobiliser les recettes et cet argent de l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs. Ils ne font pas s'arrêter seulement dans les supermarchés ici, chez Baba Tshingazi. Non, beaucoup de gens logent dans des quartiers et on ne peut pas. Ce sont des arrangements qui se font. Hein? Et parfois les agents de la DPMR pourtant il y a un locataire, on doit exiger qu'il y ait un contrat de bail et ça permet à l'État de percevoir quelque chose. Mais malheureusement chez nous il y a les services de l'habitat, il y a les bons à loyer,
ça doit collaborer avec la DPMR.
On sent que nous avons tout mais nos services ne fonctionnent pas. Et même pour mobiliser les recettes, Todo, vous avez été à la DPMR.
Oui, c'est tout grand là-bas.
La mobilisation.
Il y a chose. Non, il a été.
Non, c'est révolu ça. Ok, Thaïs. Bon, la question liée aux recettes, le budget a été voté. D'ailleurs, s'il faut d'abord que je commence à parler par le budget, je pense que les provinces devraient s'habituer à faire quelque chose de plus réaliste par rapport à leur réalité. Parce que vous allez constater qu'en 2025, quand on va évaluer ce même budget, l'exécution sera moins de
50%. Moins de 30%.
Moins de 30%. Depuis Tshishambo et les autres, c'était toujours comme
moins
ça.
Moins de 30%.
Le problème, c'est qu'on attend beaucoup de Kinshasa et Kinshasa ne nous renvoie pas. Alors, si le gouverneur pourrait compter parfois ce que lui pense mobiliser, nos gouverneurs, je dis que lui, notre gouverneur nous a parlé de 5 millions, alors ça lui ferait 60 millions, il a moins 60 millions à Kenya, sûr. Oui, c'est qu'avec ça, je peux, parce que le rétrocession est quoi, ça veut dire surplus.
Et là, il va faire quelque chose de réaliste et Nazak. Parce qu'en attendant, ce qui vient de Kinshasa, nous connaissons tous les problèmes. Et puis, un aspect que, quand j'avais suivi le reporter de Radio Mandelo, parce que je n'ai pas été là, il a parlé d'un aspect aussi important, dire que beaucoup de députés se sont attelés au fait que le budget a beaucoup plus de charges par rapport aux frais de fonctionnement et de rémunération. C'est aussi un autre problème. Nous attendons le développement, hein, mais beaucoup de, une grande partie de nos recettes, et c'est là que ça soit à Bukavu. Comment Kinshasa?
Les députés, ils sont gracieusement...
Non,
ils ont obtenu l'argent pour la lecture. Oui. C'est que...
Bon, ça, ça a toujours été comme ça.
Ça fait longtemps que ça ne se fait pas comme ça.
Non, non, s'il plaît. Ça a toujours été comme ça. Les frais de lecture, ça a toujours été comme ça. Alors, c'est que là aussi, ça pose un problème. Là. Quand on parle de la question liée aux recettes, il y a des problèmes. Et parmi les problèmes, c'est que quand le gouvernement est venu, après avoir fait la remise et reprise, j'espère que Radio Mandelo garde le son, le gouvernement avait parlé des réformes. Parce que l'édit qui a créé la DPMR de 2009, entré en fonction 2012-2013, aujourd'hui, 10 ans après, 10 ou 11 ans après, est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir? J'ai été à la DGRNK pour l'échange d'expérience, j'ai trouvé que la DGRNK avait déjà changé, avait déjà réformé, fait 5 réformes. 5 réformes. Mais la DPMR n'a jamais fait une seule réforme. Donc, on est dans
la routine là-bas.
La même routine depuis 2013. C'est 13 quand Tshambo, ça a commencé effectivement. Bon, peu importe la façon dont ça a été élaboré, mais ils ont les privilèges.
C'est qui ont...
Non, écoutez, d'abord, ceux qui l'ont fait ont le privilège d'avoir réfléchi d'abord et faire quelque chose sur base de elle. Les gens pouvaient encore continuer à réfléchir et améliorer. Je pense que c'est ça. Donc, sans des réformes aussi internes, parce que le problème que connaît la DPMR, ce sont des problèmes endogènes et exogènes. Ok, alors, certaines réformes, j'ai vu le gouverneur de Ngouabidje en arrivant, il avait déposé une proposition de réforme. Ça a été bloqué, je ne sais pas à quel niveau. C'était en 2019. Alors là, ça pose problème. Deuxième problème aujourd'hui, c'est que on peut parler de la DPMR, mais sa couverture fiscale est faible. C'est qu'aujourd'hui, la DPMR a moins de 150 agents opérationnels sur le terrain.
Mais il semble qu'en quittant,
J'ai dit aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, on a moins de 150 agents. Le nouveau directeur qui est là, c'est un casse-tête. D'ailleurs, aujourd'hui, encore avec le bouclage, il a encore d'autres difficultés. Parce que c'est dans les mêmes 150-là qui doit encore prendre Moutou, Moutier,
Ndachungé.
Tu vois un peu, ça pose problème. Et notre couverture devient faible. Et vu que ça devient faible, il a de l'argent qui échappe. Par exemple, vous allez trouver tout un territoire comme Chabunda avec 2 ou 3 agents. Or, c'est 25 000 km².
C'est un pays, Chabunda.
Ok. Mwenga, si c'est 2 agents. Idui, c'est un seul.
Un seul à Idui.
Ok. Vous voyez un peu. Fizi, 2 ou 3. Et puis, tout vira, plus ville, plus territoire, c'est 3 ou 4. Alors, ça pose un problème. Alors, ceux qui pèsent sont des gens qui ont une culture fiscale élevée, bon, dont toi tu as appelé les bonnes foi. Tu as appelé les gens de bonne foi. Sont des gens qui ont une culture fiscale élevée. Et pas seulement une culture fiscale élevée, mais aussi parce qu'il y a une façon de les contraindre à payer. C'est-à-dire, quand il faut entrer la marchandise à la frontière, nécessairement là on l'a. Et quand il y a une boutique, on l'a parce qu'on peut la sceller. Mais là, les impôts, c'est parmi ce sont les plus difficiles à recouvrer. Les impôts que la DPMR a, parce que les impôts français comme les impôts sur le revenu locatif, la loi n'autorise pas qu'on puisse sceller une maison. On peut taxer chez Thaïs, chez toi à la maison. Mais tu peux faire 2 ans, 3 ans sans payer. Bon, jusque là. Alors, dès le moment où ça sera, tu vois, que ça pose aussi un problème. Alors, voilà pourquoi la collaboration commence. Alors, parce que si on scelle une maison, quelqu'un fait aller. On a séquestré. Une séquestration. Et puis, bon, on a connu un jour, un de nos agents qui est parti dans un hôtel. On a demandé aux gens de sortir pour tout ça. Et puis, bon, Le propriétaire de l'hôtel est parti au parquet dire qu'un hôtel agent de la DPMR s'est sequestré. Et là, il n'a pas attaqué la DPMR. Il a attaqué maintenant l'agent.
Oui. C'est un agent
furieux. Oh, ce n'est pas un agent furieux.
Il n'a jamais découvert.
Je ne sais pas. Parce qu'il était en mission, il avait tous les documents nécessaires qui devraient l'autoriser à sceller. Mais bon, il y a eu résistance et puis bon. Voilà un peu un des problèmes. Et puis là, quand c'est comme ça, on appelle le procureur. Non, on va fungir, on va tout faire si foulard. Je ne sais pas comment le procureur réagit. Oui. Mais il ne comprend pas les contours. Ok. Il ne comprend pas les... Quand vous trouvez dans un... Toutes les chambres sont inoccupées. Bon, ok, on dit ok. On... Oh, c'est inoccupé. Ok, ok. Bon, je ne peux pas y revenir trop voilà. Sur cette...
Merci beaucoup.
Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, quand vous parlez des impôts, nous, à l'époque, avec le groupe Ngwabidji, on voulait commencer un projet sur associer le paiement des impôts avec le système Cash Power. OK? Parce qu'au moins, aujourd'hui, on sait que on a déjà donné plus de 80 000, par exemple, compteurs. Parce que partout, il y a un compteur pour dire qu'il y a quelqu'un qui vit. Parce que tu peux arriver dans une maison de 10 niveaux. On a déjà dit, oh, combien de locataires? Tu dis ça, 2. Ah, des mines, tu as dit, tu as dit, tu as Shangazi. Ça pose problème. Mais quand vous liez ça, les paiements, l'achat du courant au paiement aux impôts, ça pourrait aider. J'espère que le projet sera réglé parce que c'est avec qui on travaille, sont là. Mais quand on voulait faire avec ça, Théo, la morceau était tombée, puis bon.
Voilà. Voilà, nous allons vraiment terminer avec ce débat parce que nous avons un grand débat, s'il vous plaît. À parler de la révision constitutionnelle. Voilà les grandes questions qui devaient nous préoccuper, savoir comment on mobilise l'argent, comment aider le gouvernement provincial à mobiliser l'argent, avoir beaucoup d'argent, comment organiser justement la cité, parce qu'on a les cadres de base, les chefs d'avenir, oui, et, mais qu'on n'utilise même pas pour mobiliser l'argent parce que
parce qu'au moins, ils connaissent.
Oui, ils sont là. Mais pourquoi chercher d'autres agents de la DPMR, les amener dans un quartier qu'ils ne maîtrisent pas? Mais si c'est les chefs de quartier que l'on met dans le système pour recouvrer l'argent de l'État et que lui, il sait qu'il va y gagner.
Mais il faudrait les payer.
Oui, bien sûr.
C'est ça aussi le problème.
Bien sûr.
Parce que quand on parle des agents de la DPMR, quelqu'un vous envoie chercher de l'argent qui peut faire aussi 2 mois sans être payé.
Oui.
Ça pose aussi un autre problème.
Oui. Les chefs de quartier.
Comment ils sont traités aussi ceux qui peuvent chercher de
l'argent? Ça dorme ses mains. Les chefs de quartier sont au nombre de combien?
20 dans la ville.
Dans la ville, voilà. Est-ce que c'est nombreux? Les chefs d'avenir sont combien, les chefs de cellule, il suffit de les identifier, de savoir comment on les motive, pas comme des salariés, mais peut-être pour aider le gouvernement provincial à pouvoir recouvrer l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif. Mais sinon, vous êtes un agent de la DPMR, vous venez à Bagira, vous allez savoir comment que chez Amani Lomba, il y a un locataire. Mais c'est le chef de quartier qui peut avoir... Mais vous embarquez dans des quartiers, vous ne posez même pas la question au chef de quartier, au chef d'avenir, mais on peut même vous molester dans ces quartiers-là. Et donc, ce sont là les stratégies qu'il faut vraiment mettre en place, et j'espère que les autorités sont en train de nous suivre. Et on avait vraiment crié, qu'il faut vraiment associer les autorités locales, les cadres de base dans la question de la gestion des déchets. Malheureusement, on amène d'autres personnes qui viennent, qui embarquent dans des quartiers et on laisse les chefs de quartier en train de moisir, parfois inoccupés, et on ne les contacte que quand il y a l'insécurité dans les quartiers. On veut qu'ils puissent donner aussi les rapports alors qu'ils n'ont même pas des unités. Voilà les grandes questions, maman Néné, qui devaient nous préoccuper. Et c'est pourquoi d'ailleurs la société civile, les mouvements citoyens et d'autres structures engagées se sont vraiment exprimées pour dire non à la révision, au changement de la Constitution. On a demandé à l'État de pouvoir s'occuper plus de la situation sécuritaire parce que rien n'empêche à l'État de réfléchir, de mobiliser les recettes, mais on est dans ce débat, Madame Néné, de la révision de la Constitution.
Oui, merci beaucoup, Thaïs. Ce débat-là, nous l'avons commencé depuis le mois de juin, quand l'honorable Saloum est venu dans la ville et a lancé la,
la campagne de la pétition pour obtenir la province de Lille. Et nous avions dit en son temps que c'était une revendication légitime, parce que si les gens exigent qu'il y ait une gouvernance de proximité, on a rien contre. Mais nous avons dit que derrière ça, c'est caché l'idée de modifier ou de changer la constitution, parce qu'on ne peut pas obtenir une 27e province sans changer la constitution. Bon, il y en a qui nous ont cru, il y en a qui ne nous ont pas cru. Et après ça, il y a le secrétaire général de mon ami à côté qui a commencé à parler de ça. Kabuya, il a commencé à dire voilà, le chef de l'État ne travaille
est-ce
pas.
Est-ce qu'il est encore secrétaire général?
Je ne sais pas s'il y a le bicéphalisme à la
officiellement, il reste secrétaire général.
Parce que j'ai vu même des commissions.
On peut ne pas l'aimer officiellement, c'est Kabuya le secrétaire général.
J'ai vu des commissions parallèles pour le changement de la constitution.
Taïs, je suis de l'IDPS. Officiellement. Je suis de l'IDV, je te dis officiellement, on peut ne pas l'aimer, Augusté Kabuya, il reste secrétaire général. Il y a eu un mouvement déjà qui ne voulait pas les aimer.
J'ai vu un document
signé par Bizibou,
il désigne des gens pour réfléchir sur la question de la constitution.
Écoutez, il y a eu des gens qui ont voulu que Kabuya parte. Ok, pour qu'il parte, qu'il soit remplacé par des
autres. Vous êtes Melel Kabuya.
Non, je suis. Oui. Écoutez, ce n'est pas ça le problème. Oui. Le président de la République, c'est lui qui doit prendre la dernière décision.
Revenons à nos moutons. Ça, c'est un problème interne à l'IDPS.
Le président de la République n'est pas le président d'un parti politique. Dès qu'il est chef de l'État, l'IDPS n'est pas. Oui, il reste membre, mais il ne peut pas interférer dans le
principe.
Oui, alors maintenant, après ça, on a suivi Kabuya. Le chef de l'État aussi est parti en France. Il a déclaré cela. Après, c'était, je crois, le tour de Kisangani. Après, il est parti à Lubumbashi. Après, il y a une pétition de gouverneur aussi à Kalemi. Et donc, le débat a commencé à prendre de l'ampleur. Oui, mais ici à Bukavu, tout le monde était jusque-là calme. Et nous, comme société civile, nous avons décidé alors de briser le silence et de nous exprimer. Parce qu'on a dit que c'est un débat citoyen qui concerne tout le monde, la majorité comme l'opposition. Et quand nous avons fait les contours, nous avons dit, effectivement, la Constitution, ce n'est pas une Bible comme on l'a dit. Donc l'article 218 prévoit la révision constitutionnelle, mais pas le changement de la constitution, c'est la révision. Deuxième des choses, il y a l'article 219 qui donne les barrières. Donc on ne peut pas changer la constitution pendant qu'une partie de la République et sous état de siège ou quand on est en période de guerre. Mais pas plus tard qu'hier, j'ai suivi l'ordonnance qui prolonge encore l'état de siège. Donc je ne comprends pas pourquoi on tait cette question. Est-ce que quand on lit la Constitution, on regarde seulement les articles qui doivent être modifiés, qui intéressent, mais on ne voit pas les conditions qu'on donne, parce que la Constitution elle-même a donné comment les choses doivent se passer. De deux, il y a l'article de 3 plutôt, 220, qui donne la matière verrouillée, dont le nombre et la durée des mandats du président de la République, c'est 5 ans, renouvelables une seule fois. Il y a aussi l'indépendance de la justice. Mais quand on a organisé les états généraux de la justice à Kinshasa, moi j'ai compris.
Donc
aussi, j'ai participé. J'ai eu même mon brevet pour avoir participé dans plusieurs commissions.
Et
le perdième. Non, je n'ai pas eu le perdième, malheureusement. Je n'ai pas eu le perdième, malheureusement. Donc c'était des histoires un peu compliquées là-bas, l'organisation. Mais j'ai compris qu'il y avait aussi un objectif politique à travers l'organisation des états généraux, parce qu'on a beaucoup discuté sur le CSM, donc le Conseil supérieur de la magistrature. La Constitution donne la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Et en voulant amener d'autres personnes au CSM, c'est on veut toucher cet article-là et toucher à l'indépendance de la justice et donc déverrouiller l'article 220. Et pendant les discussions, même j'ai eu même à discuter avec le ministre Moukam dans le groupe où nous étions, parce qu'il circulait dans toutes les commissions. Je lui ai dit, il y a possibilité de modifier la loi
la loi sur qui porte organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature
sans toucher,
sans toucher à cet article là. Oui, il y a une loi organique, on peut la modifier parce que on peut dire par exemple créer des cadres de concertation où le président de la République peut siéger dans ces cadres où le ministre de la Justice peut siéger, où tout le monde, même les chefs coutumiers, parce que les chefs coutumiers se sont exprimés, les leaders, qu'ils voulaient en savoir plus parce que c'est un peu verrouillé. Le CSM, c'est uniquement pour les magistrats. Mais on peut modifier la loi et créer cet espace-là sans toucher à cet article-là qui va réduire l'indépendance de la magistrature. Alors, le débat a évolué, mais jusque-là, le débat est dans la rue. Le Parlement n'est pas encore saisi parce que le Parlement, au finish, qui doit se prononcer, ça doit commencer à l'Assemblée nationale, ça pourrait aller au Sénat pour se prononcer en définitive. Mais même nous avons analysé toutes ces questions et nous avons dit les changements, la révision est possible, mais pas en cette période. Pourquoi ? Il y a l'état de siège à Ituri, au Nord Kivu. Il y a des problèmes sociaux, la grogne des enseignants, les infirmiers, les médecins, les routes et tout ça. Alors, est-ce que c'est les problèmes là font que c'est les problèmes de la Constitution si on ne doit pas trouver la solution à tous ces problèmes là. C'est pour cela, en toute responsabilité, nous avons dit, et nous nous sommes d'ailleurs attaqués à l'IDPS parce que c'est l'IDPS qui nourrit ces débats là auprès du président de la République. Nous avons dit qu'il ne puisse pas induire le chef de l'État en erreur parce que derrière cette révision là, il y a la question du mandat. Mais l'IDPS ne veut pas le dire clairement, mais Kabuya l'a déjà dit. Il a dit, le président de la République ne travaille pas les deux premières années. Il travaille seulement 3 ans, et donc il faudrait qu'on lui ajoute 2 ans, 7 ans. Et s'il faut y aller, maintenant on va changer la constitution parce qu'on va déverrouiller l'article 220. Et où est-ce que cela peut nous amener? Déjà, la cohésion nationale est fragile, avec les problèmes de tribalisme, avec l'insécurité qu'il y a maintenant au site Kivu, parce que il y a la semaine passée, nous avons appris qu'il y a eu des affrontements à Minembwe, et il y a les Red Tabara qui avancent. Du côté front nord, il y a vers Minova, là-bas, dans les hauts plateaux. Il y a aussi la menace du M23 qui pèse sur le site Kivu. Nous avons aussi analysé la question de Luanda, parce que moi, par 2 fois, j'ai rencontré le président Lorenzo. Et maintenant, quand j'ai vu Biden arriver là-bas, c'est alors que j'ai compris la vraie raison de ce processus-là. Donc, c'est chaque fois quand on discute avec nos autorités, on montre toujours que la guerre que nous connaissons, c'est une guerre économique. Donc, on cible nos minéraux, on veut affaiblir tout un peuple parce qu'on a les minéraux. Aujourd'hui, on a les minéraux stratégiques qui interviennent dans la transition énergétique. Nous avons le lithium, nous avons le cobalt, nous avons le cuivre. Tout le monde veut avoir ça. Et Biden, à quelques jours de quitter la maison blanche, il part, il dit non. Et on a rapidement rappelé le président de la République là-bas. Il n'y a que notre voisin belliqueux qui n'était pas là. Voilà. Parce qu'il est aussi concerné. Alors moi j'ai compris, si on doit faire cette histoire-là de l'hôpital, c'est pour maintenant organiser un pillage organisé maintenant de nos ressources vers les États-Unis, parce qu'ils se plaignent qu'on est trop tourné vers les Chinois. Il faut maintenant que les États-Unis aussi aient leur part. Et donc j'ai compris que nous sommes en difficulté. Et nos autorités, on sait que le président de la République aime quand même la nation congolaise, il doit être très attentif à ceux qui lui disent aussi non. Pas seulement écouter ceux qui lui disent oui, mais aussi analyser cette question. Et je sais que c'est possible de mettre fin à la guerre, c'est possible de répondre aux besoins vitaux de la population. Et après, maintenant, les commissions peuvent se constituer, on appelle tout le monde, voilà, les articles qu'on voulait, qu'on veut réviser, tout ça. Après avoir vidé tous ces problèmes-là, et je crois que dans un laps, c'est une question de volonté.
Donc, selon vous, le moment n'est pas approprié,
oui.
Compte tenu que la Constitution elle-même a prévu que, en cas de guerre, nous sommes en guerre, nous sommes justement en guerre. Vous avez parlé de la guerre, quoi ? État de siège.
Non, c'est forcément
l'état de siège. Au nord qui voit à Ituri.
Voilà. Et maman Yvette Robouille, vous, ce qui vous intéresse, c'est le troisième mandat. Vous craignez que ça.
Ce n'est pas question de dire que nous craignons ce troisième mandat.
Mais pourquoi vouloir s'éterniser au pouvoir le... Non. S'il veut le troisième mandat, il n'a qu'à laisser à ce qu'il sera élu, à ce qu'il passe démocratiquement, de la manière dont les choses doivent se passer. Parce que quelque part, moi je me dis que la Constitution, je pense qu'on a conçu la Constitution, c'était pour le bon fonctionnement des institutions. Mais aussi c'était dans le cas de gérer les conflits et voir comment est-ce que même on peut aider la souveraineté de, du pays. Mais si nous regardons un peu ce que nous traversons aujourd'hui, il y a tout un tas de contraires de ce qui a été comme objectif de la Constitution. Alors vouloir réviser cette Constitution-là, il y a un agenda caché derrière, comme Maman Néné vient de le dire ici. C'est de vouloir se donner ce troisième mandat qui sera maintenant couvert par tant d'autres motifs qu'on cherche et des articles qu'on cherche à insérer dans cette constitution-là, afin que ça puisse leur sécuriser, les protéger, à continuer toujours à aller vers 5e, 6e, 7e mandat. Et là, on ne peut pas être d'accord, parce que nous sommes quand même un pays démocratique. Et quand nous parlons de la démocratie, nous avons la population derrière nous. Mais si on ne peut pas se retrouver en train de vouloir changer cette constitution pour un individu, oubliant qu'il y a l'intérêt du peuple qui prime. La vie sociale de la population, la vie sécuritaire de la population. Il y a l'État qui est presque tout, partout, dans toutes les provinces, il y a ce problème-là de vie sociale qui est maintenant délabrement. Il y a le problème d'eau. Chez moi, à la maison, je pense que j'ai presque un mois sans l'eau au robinet. C'est pourquoi je voulais même parler à Badera quand il est parti concernant l'eau courte au robinet. J'allais parler de ça. Que chez moi, ça fait un mois que je n'ai pas de l'eau au robinet. Pendant que dans d'autres pays sous-développés, l'eau et l'électricité n'est plus un problème. Les routes ne sont plus des problèmes pour eux. Mais pourquoi nous au Congo? On peut vraiment se donner et s'engager et donner des moyens, tout ce qui est des efforts possibles pour que la Constitution soit changée. Il y a quelque chose qui cloche là derrière. Moi, je pense que ce n'est pas le sujet du jour. Ce n'est pas même à débattre. Parce que le débat que nous devons amener ici autour de nous, c'est ce que Maman Néné a fait là-bas, le plaidoyer concernant les souffrances de la population, les difficultés de la population. Comment aménager les routes? Comment aider les enseignants? Comment aider la santé? On a vu comment est-ce que les écoles, je pense qu'il y a d'autres écoles jusqu'à aujourd'hui qui n'arrivent pas à étudier. Parce qu'il y a le problème, les enseignants ne veulent pas enseigner. Donc pour nous, ce n'est pas l'histoire de dire qu'on a peur, mais on ne veut pas assez qu'on puisse retourner à la dictature. Parce que nous avons quitté la dictature de Mobutu vers la démocratie. Et on ne peut pas se laisser encore y retourner. Pendant que la population est en train aussi de voir tout haut qu'il y a un danger qu'on peut nous amener à travers le changement de la Constitution. Étant dans cette situation qu'on venait de dire ici, de guerre à l'Est, donc on risque pratiquement de diviser le pays. Ça, c'est un danger que nous voyons aussi pour balkaniser la RDC. Parce que quelque part, on va se retrouver, nous, étant dans un autre pays, et l'Ouest vers un autre pays. Et là, ça ne va pas.
Voilà. Maître Manilomba, vous êtes pour la révision de la Constitution.
Merci beaucoup, Thaïs. J'étais d'abord à remercier cet espace de cette émission, mais aussi remercier toute l'équipe, les pour et les contre de la révision de la Constitution. En tant que citoyen engagé dans la promotion de la bonne gouvernance et le développement démocratique, j'étais à souligner que la Constitution, notre constitution de la RDC, est un instrument vivant et qui est appelé à s'adapter aux réalités changeantes, bien sûr, de notre société. Moi, personnellement, je ne porte pas la révision de la constitution seulement parce que ça s'est dit en 2023. Vous vous rappellerez, Thaïs, je pense que les éléments existent encore, c'est depuis 2015 que je suis en train de solliciter qu'on puisse revoir notre constitution. Mais à l'époque, la dernière correspondance que j'avais reçue, le ministre de l'Intérieur à l'époque, Ramazani Shadary, ne voulait pas que la question de l'article 10 et 51 soit soulevée. Et parce que... Je vais arriver.
Nationalité minorité.
Et, oui. Et aussi, lorsqu'il y avait déjà une révision en 2011 sous Raïs, cette révision de même, ils ont volontairement omis la place, la position d'un citoyen congolais dans la gestion de l'État. En quoi? Lorsque nous sommes dans la Constitution, l'article 5, alinéa 1er, il est dit que le peuple est souverain primaire. Et il donne son pouvoir par un mécanisme direct ou indirect des élections, n'est-ce pas? Mais lorsque nous allons à l'article 110 de la Constitution, les 9 conditions prévues pour déchoir un député ou pour arrêter un mandat ou pour la suppléance d'un mandat, on ne place plus la population qui avait donné son pouvoir à l'article 5 parmi les conditions. Il faudrait qu'on mette un alinéa là où on propose que, moyennant une pétition de signature, on peut retirer un mandat à un élu qui a défailli à sa mission. C'est ce qui a encouragé que certains députés, quand ils passent député, ils font du n'importe quoi. À quoi finit-on en Zéla? Il peut même acheter la maison de l'État. Il peut même se décider de ne pas même aller siéger et quelquefois après on le remplace par son suppléant. C'est le même système. Mais il touche l'argent de l'État congolais. Et alors, moi, à ce départ, la lutte, tellement que ma taille n'était pas encore avancée, la voix n'était pas arrivée à tous les niveaux, on m'a dit d'arriver. Nous sommes allés aux élections de 2018. Je suis allé même solliciter, maman Néné se rappelle parce que j'ai l'habitude de la copier, tout ce que je mène comme démarche, elle fit mon chef, elle fit mon syndic, quand j'avais prêté ce nom comme défenseur judiciaire. Je lui copie tout ce que je pense dans ma tête par rapport à la question de cette action. J'avais proposé une réforme profonde de la loi électorale. Lorsqu'ils ont commencé à parler de la question des seuils électoraux, j'ai dit, mais c'est déjà frustré la jeune démocratie. On ne peut pas penser à la démocratie et penser à nous imposer une question de seuil électoral. Moi encore, la voix n'avait pas atteint un certain nombre, mais quand même, mouke tozokola. On est en train de grandir. Et c'est comme ça qu'en 2020, après les élections, nous avions encore initié de démarches pour la révision de la Constitution. Et ces démarches, nous sommes réunis autour d'une table des cadres universitaires congolais, sous la conduite du professeur Jean Kamba, pour solliciter qu'on puisse revoir la Constitution. Cette fois-ci, on n'était plus dans 5 articles, il faudrait aller jusqu'à 34 articles à revoir. Et nous avions soumis des propositions. Et à ce moment-là, la question qui préoccupait le chef de l'État, c'était la question de déboulonner le système FCC, cash et tout autre là, pour finir à créer l'union sacrée. Nous, on a compris que c'est une question pertinente. Et nous, notre démarche est fondée sur la base constitutionnelle, l'article 218, alinéa 4. Lorsqu'aujourd'hui, les compatriotes congolais nous disent on ne peut pas revoir, ce n'est pas opportun, l'opportunité est là, mais la majorité des Congolais ont peur du bicéphalisme politique des acteurs congolais. On peut revoir la Constitution à tout moment, à n'importe quelle période. Et lorsqu'on nous parle d'un état de siège, oui, des de nos provinces sont sous cet état de siège, en 219. Mais la loi elle-même, la Constitution elle-même, l'article 218, alinéa 4, dit qu'il faut une fraction de la population réunie en 100 000 personnes. Donc, même mon petit village du Chamba dans le Karongo suffit pour que la révision soit déjà mise en mouvement et rendue institutionnelle vers les assemblées pour que ça soit voté ou pas. Parce que aussi, ça revient à nos députés de se prononcer régulièrement par rapport aux démarches. Et lorsqu'on nous dit aujourd'hui l'inopportunité, les amis du PPRD, la société civile qui sont nos partenaires aussi de même, disent qu'ils ont perdu le troisième mandat. Le troisième mandat en elle-même, ça se crée. Parce que l'article 220, dont on fait, à laquelle on fait allusion, est l'article verrouillé. L'article 220 n'est pas verrouillé. L'article 220 verrouille certains articles.
Oui.
Donc l'article 220 peut être aussi révisé. Et en la révisant même, c'est là où nous disons, par rapport à la question du mandat, si la majorité des Congolais
ou nos députés estiment que 5 ans ne suffit pas pour gérer la chose publique, gérer le gouvernement, gérer la République, ils peuvent aller à 5 ans. Il y a des expériences des présidents africains. Et le cas de Burundi, il a révisé la constitution, il a prolongé les mandats, mais lui ne s'était pas représenté à cette nouvelle prolongation. Et c'est là où nous parlons des deals politiques. Dans les deals politiques, il faut se dire, est-ce que ce que je fais revient dans mon avantage ou ça va avantager mon successeur? Je sais que les gens prêtent des intentions à Raïs, tu sais qui dit Raïs, ça c'est Kabila. Le président Félix.
Raïs, c'est le Swahili.
Apparemment, c'est un terme approprié à mais le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en prenant le courage de dire ou placer son intention sur la révision, d'ailleurs, lui parle du changement. Ça, je le lui concède. Lorsqu'il prend ce quoi, c'est parce qu'il y avait déjà des demandes en cours. Et lui, en tant que garant de la nation, qu'est-ce qui n'est de beau, c'est de se prononcer quant à ça. Il dit, mais oui, la constitution, à certaines failles, comme je l'ai dit à mon introduction, la constitution doit s'adapter à des réalités politiques actuelles. La majorité des présidents disent, est-ce que la constitution a bloqué Koudjenga Barabara, Nakazalika, Nakazalika? Mais oui, même cette constitution aussi bloque. La bonne volonté, je vais répondre. Parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et la présidence de la République, c'est une institution à part, tout comme le gouvernement, c'est une institution à part. Le président de la République donne sa politique pour ses mandats, il y a six piliers de sa politique de gouvernance. Et c'est au premier ministre, parce que nous avons la première ministre, de pouvoir tout faire, c'est ce que nous avons décrié même à l'introduction de l'émission, de pouvoir tout faire pour que les acteurs, ces collaborateurs ministres sectoriels, chacun se mette au travail dans son domaine. Et l'argent qu'on met à leur disposition, ce n'est pas pour se faire tailler et non une méritocratie, une considération sociale, mais c'est pour servir à l'intérêt du gouvernement. Comment est-ce qu'un ministre des infrastructures, mais il ne sait pas construire les routes dans un état, mais chez lui, il met une route en goudron, par exemple.
Voilà.
Alors, par rapport à la révision de la Constitution, nous appelons le peuple congolais à la conscience et à l'amour de la patrie. Notre Constitution n'est plus adaptée, en réalité, dans certains de ses articles. Nous avons parlé de la question de l'éventuelle province de Lila. Comment est Lila? Parce qu'en réalité, il y a un problème de gouvernance dit à cette question-là de l'article 3 sur la décentralisation. Il y a aujourd'hui, je vous assure que le Sud Kivu a un problème de bien contrôler, de bien gérer Fizi, Mwenga, Shabunda.
Ah bon?
Oui! Et aujourd'hui, si ces gens demandaient l'autonomie dans leur administration, nécessairement c'est de leur droit. C'est de leur droit. Mais il faut que l'article 3 leur donne cette brèche de mécanisme pour créer cette nouvelle province.
Maître Mani, vous savez, oui, voilà, j'ai une question à vous poser. Vous savez pourquoi la majorité des Congolais n'aiment pas la guerre qui se vit au Nord Kivu? C'est parce que ça vient de l'étranger. Hein? Également, vous savez pourquoi certains Congolais ne souhaitent pas cette révision de la Constitution? C'est parce que ça vient du pouvoir. Je vous ai suivi religieusement. Vous êtes de bonne foi. Et vous pensez qu'en y allant avec les autres, le Blaise Masseka et Théodore Moussem, vous allez y aller comme vous le voulez. Mais qui vous dit qu'ils sont de bonne foi et qu'ils vont tenir compte de tout ce que vous avez dit là-bas?
Nous, dans la commission qui s'occupe de cette question, nous avons déjà associé l'audience au préchef de l'État et c'est que c'est cette semaine on sera ici s'il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans la démarche de l'IDPS. L'IDPS et sa suite est dans la démarche du changement de la Constitution. Et ils sont en train de vouloir monter sur l'article 218, alinéa 1er, que le chef de l'État peut initier aussi. Et pourtant, en réalité, l'idée n'était pas venue du chef de l'État. L'idée était venue de Kabuya et sa suite. Et qu'aujourd'hui, on est en train. Allez-y. Nous sommes en train de vouloir aller dans ce sens. Mais nous avions initié.
Je vous dis, c'est depuis 2020. Sur base d'article 218 alinéa 4, nous avions proposé même des articles à toucher. Mais on n'a pas encore abouti parce qu'il faudrait attendre que parce que vous avez demandé d'aller d'abord vers la question des déboulements de l'FCC tout autre. Mais par rapport à leur façon de voir les choses pour le changement, ça c'est leur façon.
Mais nous, en tout cas, en vous écoutant, vous êtes de bonne foi, vous avez de bonnes idées.
On ne connaît pas les
votre initiative, qui a commencé depuis longtemps, elle est louable, mais vous ignorez les partenaires qui viennent d'amener... Vous avez vu, le chef de l'État, quand il a parlé de cette question, il a dit que personne
ne
peut l'empêcher. Et quand il parle de cette question, vous sentez qu'il parle, il parle sur un ton sérieux là, et facilement, si on est avisé, on va constater qu'il y a quelque chose derrière cette initiative, parce que les chefs de l'État ne s'expriment pas comme ça quand il y a par exemple des catastrophes ou des problèmes qui se posent au pays. Mais pour cette question-là, on sent que vraiment, il est sérieux, il parle avec... oui.
Avec fermeté.
En fait, c'est ça le grand problème, maître.
En fait, Thaïs, on peut comprendre une chose. Le chef de l'État, son excellence, Félix-Antoine Tshilombo, c'est un citoyen congolais comme moi, Amani Luamba. La différence, c'est que lui, Félix Tshisekedi, est chef de l'État et il représente une institution, la présidence de la République. Alors, lorsqu'il s'exprime par rapport à ce qu'il est en train de comprendre au pays, il devrait s'exprimer avec passion, avec détermination, avec la toute dernière colère. Moi, je n'ai pas peur de mes partenaires l'IDPS ou partenaires politiques par rapport à cette question, parce que la question d'abord, c'est d'importance capitale pour la vie de la RDC. Ce que moi, je crains en tant que citoyen congolais et acteur politique, ce que je crains, c'est le bicéphasisme politique. C'est-à-dire que devant nous ici, on parle de la question, le mandat prend fin déjà en 2028. Ça sera le 20, je pense, le fin décembre 2028. Mais que derrière cette révision, on se dit, je recommence mon nouveau mandat. Ça, c'est le bicéphale politique. Et c'est ça que même l'Église catholique a de craindre. Parce qu'il peut se le dire. Alors, c'est là, mais moi, je me dis... Le citoyen congolais, son souverain, pour barrer la route à quelqu'un qui va s'imposer au pouvoir. La même question donne ce pouvoir.
Voilà.
Si cela s'avère que c'est ça l'intention cachée. Mais on a fait contre Kabila.
Là,
vous rappelez ça, non, je ne peux pas dire aux Congolais que lorsqu'il y a l'intention méchante de pouvoir s'éterniser, les Congolais peuvent se prendre en charge. Parce qu'on l'a fait contre Kabila, mais on a eu à les débouter. Et c'est-à-dire que nous, on va dans le sens de la révision de la Constitution, c'est pour garantir un État démocratique congolais. Et nous sommes en train d'aller, si le partenaire, l'IDP, c'est la suite, vont s'ajoindre à cette lutte dans la même philosophie que nous, Haya, c'est pour sauver notre État, notre patrie.
Voilà, merci beaucoup. Que Dieu nous aide, que vos idées passent. Mais l'expérience rend sage. Nous étions dans ce studio quand on parlait encore, c'était en 2011, on parlait de la révision de la Constitution. Les politiciens ne sont pas des bons types.
Ce sont des malins.
Oui, et je sais que vous avez encore
une... Nous sommes vos partenaires.
Vous avez encore une dose de la société
civile. Vous pouvez atténuer.
À l'époque de Kabila, le même gouvernement avait attaqué Kabila. Je n'ai pas changé.
Vous avez changé. S'il vous plaît. Voilà. Blaise Maseka, c'est pas pour rien que vous êtes dans cette lutte.
Non, évidemment. Je remercie d'abord.
C'est pour même les mêmes raisons que Amani Luamba.
Non, peut-être. Mais je tiens d'abord à féliciter tous ceux qui ont pris la parole avant moi. Je trouve que la situation au studio s'est décrispée davantage. Je salue d'abord Madame Néné Bintou, avec laquelle j'ai toujours eu le privilège de débattre. Elle donne des idées avec un sang-froid et d'une manière la plus lucide. Et c'est ça, quand on est vraiment dans un débat, on doit faire passer ses idées. Nous sommes en pleine démocratie, que donc la tolérance, la divergence des opinions, c'est ça aussi la démocratie. Mais avant de ramasser peut-être tout ce que les co-débatteurs ont dit,
je dois donner d'abord la position de mon parti. Parce que notre position n'est pas ambiguë. On s'assume, comme je l'ai dit. Advienne que pourra. Et c'est ça, la politique. Il faut savoir s'assumer. Quand vous avez choisi un camp, vous les défendez, mordicus. Vous voyez comment Madame Roubouillet défend le PPRD. Et je la félicite pour ça. Donc pour nous, vous savez que notre parti est dirigé par un enseignant de droit. D'abord, je commence par là. Parce qu'il y a des gens qui parlent de changement, révision, mais sans vous dire quelles sont leurs innovations par rapport à ce qu'ils pensent. Et notre bureau politique national s'est réuni le 27 novembre et nous avons produit une déclaration politique. Et dans cette déclaration, il y a une série de matières que nous, on voudrait comme FPCN, cette liste n'est pas exhaustive, les autres partenaires comme la société civile, Amani Luamba avec son parlement de nous, Radio Maendeleo, société civile renommée, PPRD, les autres peuvent enrichir notre réflexion, elle n'est pas exhaustive. Mais nous, on a dit par exemple, pour l'avènement, parce que nous sommes dans l'optique du changement. Chez nous, le terme révision n'existe pas. C'est le changement. Nous voulons une quatrième république. Et cette quatrième république passe par le changement de la constitution. Et dans cette nouvelle constitution, nous avons dit par exemple, nous voulons un parlement monocaméral. Avec une seule chambre. Je donne un exemple ici. Vous avez parlé du social. Est-ce que vous savez combien le Sénat, cette chambre haute que moi, j'estime inutile.
Bungelawaze,
le temple même de la délinquance politique. Pour moi, le Sénat, c'est le temple de la délinquance politique. Mené Bintou et les autres de la société civile ont été candidats, sénateurs. Ils savent comment on se fait élire comme sénateur. Donc, c'est le Sénat qui est vraiment la chambre ou le temple de la délinquance politique par excellence. Que font les sénateurs? Seconde lecture. Et surtout que la Constitution prévoit que quand il y a divergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est la vie de l'Assemblée qui l'apporte. Pourquoi cette seconde lecture nous prend du temps? Même le nombre de députés nationaux, devons-nous en avoir 500?
Pourquoi?
Cet argent qui devait servir aux sénateurs pour leur payer grassement, on peut le mettre dans l'enveloppe du social. Et quand on parle de ça, les gens pensent que nous visons X ou Y. Non. La loi a un caractère impersonnel. Les assemblées provinciales, à quoi elles nous servent? Nos députés provinciaux qui nous écoutent maintenant, soyez un peu indulgents, ce n'est pas vous qui êtes dans les viseurs. Surtout que cette question ne concerne pas la législature en cours. Vous allez finir votre mandat. Mais quand les assemblées nous servent à quoi? Si pas déstabiliser les exécutifs. Deuxième chose, la CENI et d'autres structures d'appui à la démocratie. Dans d'autres pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. À quoi nous a servi la CENI de 2006 à nos jours? À part voler le résultat. Amani Luamba a été candidat, il a été massivement élu, mais il n'a jamais été proclamé par le Kadima.
Oui, j'ai été.
À quoi sert
cette CENI? Pourquoi j'ai dit qu'elle n'est pas proclamée?
Nous disons qu'on va supprimer la CENI.
Une minute, je suis en train de demander à Madame Néné d'aider les candidats conseillers communaux qui n'ont jamais eu les résultats. Non, il y a ceux-là qui ont été proclamés.
Ils n'ont jamais eu les résultats.
La CENI n'a jamais publié.
Il ne reviendra jamais. Mais il siège déjà.
Non.
Il est clair. Les noms de l'ennemi, ils ne savent pas que le droit qu'on en a.
Oui, parce que ça permet de savoir si...
Comment rectifier les...
Oui, s'améliorer.
On peut s'améliorer.
L'autre partage de ce que nous on propose au FPCM, c'est le retour au second tour de l'élection présidentielle.
Félicitations.
En 2011, le PPRD de Mme Roubouillet
a cavalièrement piétiné cette même constitution qu'elle prétend défendre aujourd'hui.
Ah bon?
En ramenant l'élection présidentielle à un tour.
Un tour.
Ah. Donc, il y a des gens qui devraient être modestes dans ces débats.
On a même enlevé les débats contradictoires.
Oui. S'il y a des gens qui devraient être modestes dans ces débats, et ne pas y prendre part, c'est le fait perdu.
Mais votre autorité morale est passée.
Oui, c'est effectivement ça.
Ah, mais il est passé, il est passé pour
vous. Vous partagez votre passé avec lui en commun. Moi, je n'ai jamais été au fait perdu. J'étais au RCD. Je veux revenir sur ça et j'en suis très fier. Là, donc, on a aussi pensé que on devait laisser la latitude au chef de l'État de nommer les gouverneurs. Les animateurs des ZTD, avec un accent particulier sur la décentralisation des noms originaires, donc le pouvoir, la nomination des noms originaires. Thaïs Bagula va au Bas-Congo comme gouverneur, Théodore Moussem va à Boujala comme administrateur du territoire, le Semaseka va à Kikwit, ça va nous aider à cimenter l'unité nationale, et c'est parmi les points forts et positif de la Deuxième République Zulu Mobutu. Un autre point, là, le fonctionnement de la justice, nous soutenons ces conseils, les états généraux, parce qu'on estime que tous ces magistrats verraient qui existent, la justice est malade. C'est le magistrat suprême qui a dit ça, ce n'est pas Blaise Maseka. Il faut qu'il y ait un organe quand même capable de sanctionner tous ces magistrats qui monnaient la justice dans notre pays. Et enfin, la double nationalité organisée. Il y a des Congolais, de la diaspora surtout. Notre pays a connu beaucoup de guerres, beaucoup de Congolais sont partis en exil à l'étranger. Et pour diverses raisons, certains ont acquis une autre nationalité là où ils sont.
Au Parlement actuellement.
Il faut, oui, même au Parlement.
La double nationalité.
Il faut
même au gouvernement et à la présidence.
Pendant cette période de la mondialisation, où le Congolais doit s'épanouir, il est vraiment aberrant qu'on dise que quand on acquiert une autre nationalité, quand Thaïs devient belge, il n'est plus Congolais d'origine alors qu'il est de l'Uro. Nous connaissons ses arrière-grands-parents, tous ses intérêts sont ici. Nous avons vu des acteurs politiques ici être écartés de la course parce qu'ils ont osé un jour. Le gouverneur Jean-Jacques Kourou, c'est un moment. Il en a été victime. Cet article, je lui félicite parce que, à Calémy, au conseil de ses pères, notre gouverneur
a signé,
il a dit qu'il est pour le changement de la constitution. Et je le félicite pour ça, et les sites qui aussi doivent le féliciter pour ça, parce qu'il nous engage au moins. Il n'y a que lui qui nous engage, ce n'est pas la société civile. Madame Néné, la société civile, vous êtes aussi trop prétentieux et audacieux. Quand vous prenez une position, vous pensez qu'elle engage tout le monde. Alors que dans les faits, dans les textes qui nous régissent, votre marge de manœuvre est réduite. Vous ne pouvez pas engager la province du Sud qui vous. Et que donc, je vais alors ramasser quelques éléments dont mes co-débatteurs ont évoqué.
Oui,
Madame Néné Bito a parlé de l'état des sièges et de l'état des guerres.
Oui.
L'émission a un caractère pédagogique.
Oui.
Au fait, nous ne sommes pas sous un état des sièges global.
Non.
Il n'y a que deux.
C'est une partie. L'article 2A19 parle d'une
et
partie.
Encore,
pas une partie. Je veux dire ça.
Pas vraiment une partie. Et encore
je
que.
Je vais lire l'article.
Qui a instauré l'état des sièges?
C'est le président.
C'est le président. Qui peut aujourd'hui le lever, même ce soir, par ordonnance? Ce n'est pas la société civile qui le verra, cet état de siège. L'état de guerre. On n'est pas dans un état de guerre aujourd'hui. La guerre se déclare par une ordonnance aussi présidentielle. Nous subissons une agression, mais nous n'avons jamais déclaré un état de guerre. C'est par ordonnance que le chef de l'État déclare la guerre contre un pays qui nous agresse. Je parle aussi de Madame Rubouya a parlé des conflits. Effectivement, j'en suis très fier. Je viens de dire que j'ai été au RCD. Quand on dit que cette constitution, c'est une constitution de belligérants, c'est vrai. Moi, j'ai été belligérant.
Le PPRD a été dans la belligérance. C'est notre constitution à nous, les belligérants. Et dès 20 ans après, tous ces belligérants de l'époque, vous savez comment on a multiplié toutes ces institutions? Parce qu'à Sainte Cité, effectivement, tous ces belligérants se posaient la question, comment allons-nous survivre après avoir signé,
après avoir déposé les armes.
Déposé les armes. Ils ont créé les sénats, les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, les structures d'appui à la démocratie, pour qu'ils se retrouvent dedans. Mais le pouvoir politique est foncièrement rotatif. Beaucoup de ces belligérants nous ont quittés. Ils n'existent plus, ils sont morts. D'autres aujourd'hui sont des vétérans politiques. Et c'est là où moi j'ai dit, ce combat de la 4e République, c'est un combat d'une génération, la nôtre. Nous avons laissé à tous ces vétérans trois républiques. Ils ont géré la première République, la deuxième République, la troisième. Et vous savez ce qu'ils en ont fait. Notre génération à nous réclame sa propre République, la 4e République.
Merci beaucoup.
Et notre génération soutient cette démarche-là et ça sera ça les vétérans politiques.
Merci.
Alors, je vais dire ceci. Je suis très ravi de voir que le débat évolue. Ce qui nous oppose aujourd'hui, c'est le terme changement. La société humaine ne veut pas du changement. Mais elle est quand même pour la révision.
C'est déjà bon.
Et on va se mettre ensemble autour d'une même table. C'est que les chefs de l'État appelaient les constituants originaires. Parce que le changement de la Constitution actuelle ne prévoit pas son changement. Mais le souverain primaire, c'est le peuple.
Oui.
Le chef de l'État peut estimer. Il appelle toutes les forces vives de la nation, il dit, nous constituons à une assemblée constituante, le PPRD amène ses idées, la société civile amène ses innovations, et on aboutit à un texte qui va nous engager tous. Oui. Quant au mandat, les chefs d'État lui-même a dit que...
La société civile que vous ne reconnaissez pas.
Moi, je reconnais la société
par la Constitution.
C'est reconnu par la Constitution.
Même par les tests.
Moi, maître Néné Bin, tu sais quelle considération je donne aux partenaires de la société.
Oui, oui.
Alors, quand ça concerne le mandat, le chef de l'État a dit que ce n'est pas ça le problème. Et puis, nous avons connu des gens qui ont glissé dans ce pays. Il avait un mandat de 5 ans, il glisse 2 ans. Au lieu d'aller glisser, autant bien aller à 7 ans. Joseph Kabila a glissé dans ce pays. De quel droit il a fait 7 ans au lieu de 5 ans? Madame Roué va me répondre peut-être. Merci
voilà.
Beaucoup, Thaïs.
Voilà, vous avez de bonnes idées.
Tout de ça... très bonnes idées.
Oui. Tout ça, on connaît. Mais moi, la question que je suis en train de vous poser, quelle assurance... Quelle assurance que vos idées vont passer. J'ai vu la liste de gens qui doivent faire partie de la commission, des gens proposés par le secrétaire général Haïti des villes de Pes, de Ovisi, Ovalola. J'ai vu qu'il y avait des professeurs, il y avait des grands professeurs, il y avait des juristes. Alors, c'est vrai. Vous avez de bonnes idées, comme Amani Lwamba. Je comprends également vos idées, les idées émises par votre parti. Ce sont, voilà, tout le monde s'est dit, voilà, telles institutions, à quoi elles servent. Il faut changer, peut-être réviser, changer la constitution. Mais est-ce que les amis du peuple, de lutte de paix, excusez-moi, vont prendre en compte, est-ce qu'il faut d'ailleurs vous inviter au débat?
Moi, je pense qu'ils ne font pas réduire ces débats d'intérêt général à un parti politique. Bizibou, il signe, Kabuya, il signe, ça n'engage que eux. Mais le dernier mot, le garant de la nation s'appelle qui? C'est le président de la République. C'est lui qui saura le format. Donc les débats à l'interne à l'IDPS, on ne peut pas interdire aux gens, même à Radio Mandela, vous pouvez convoquer une réunion pour dire. Le débat d'actualité, c'est le changement de la Constitution. Que pense Radio Mandela par rapport à tel ou à tel autre point? Oui. Donc nous nous remettons. Le chef de l'État a dit que cette consultation sera la plus inclusive possible. Et puis dans un débat démocratique, on n'y va pas pour gagner à 100% ou perdre à 100%. On n'a pas dit que tout ce que nous proposons doit passer à 100% ou ce que la société civile propose sera tenu en compte à 100%.
C'est un débat et je voulais que les gens nous évitent cette psychose inutile
oui.
qui sont en train d'éjecter dans la population comme
quoi. Êtes-vous sûr que vous serez invité au débat?
Mais bien sûr.
Ah, pourquoi voilà. pas. Mais je vois que vous avez bien réfléchi.
Parce que nous avons de la matière.
S'il vous plaît, vous avez bien réfléchi, vous avez sorti un bon document, mais je ne vous ai jamais vu. Et c'est ça, nous sommes en train de le déplorer, que les partis politiques se réunissent, par exemple, pour réfléchir sur cette question des enseignants. On a vu nos enfants rester à la maison pendant 2 mois. Hein? Cette question de mobilisation des recettes, je n'ai jamais vu les gens se réunir hein, et sortir des déclarations. Mais comme le président de la République a parlé, c'est bien, bon, c'est lui le garant de la nation. Mais on devait aussi se réunir pour donner des propositions et réfléchir sur d'autres mots qui gangrènent la société congolaise. C'est un grand problème.
Oui,
vous avez cité les gouverneurs de province, mais ils ne pouvaient que faire ça. Je ne vois pas un gouverneur qui pouvait s'opposer devant le chef de l'État.
La contrainte.
Voilà. Oui, vous venez d'ouvrir.
La contrainte était morale.
Et c'est là que je vais condamner. Nous savons la position de la société civile, nous savons la position du PPRD, nous savons la position des X et des Y, mais je condamne certains sociétaires de l'Union sacrée de la nation. Certains caciques, le Présidium, je vais vous citer, de Kabuya. Il s'est déjà prononcé dans le cadre des lits de paix.
Oui.
Mbosso s'est déjà prononcé. Bemba s'est vaguement prononcé. Mais il s'est prononcé quand même. On le loue pour ce courage.
Il y a rien communiqué.
Que fait l'honorable Vital Kamerhe?
Oui, mais l'opportunité.
Que fait Modeste Bahati? C'est tout pour nous, Sidi Kivoussien. Nous avons besoin de savoir. C'est des leaders qui occupent des postes hautement stratégiques. L'honorable Vital Kamerhe, c'est la deuxième personnalité du régime.
Oui, mais
il ne peut pas rester silencieux face à cette question.
L'honorable
Bahati Lukwebo, c'est lui qui a la province du Sud qui va entre ses mains.
Pourquoi vous voulez le contraindre à ses promesses
C'est de la lâcheté. La politique, ça ne passe pas.
Non, s'il vous plaît.
Les gens doivent s'assumer. Tu vois comment je sollicite d'ailleurs.
Madame Vest, je suis en train de parler de la route qui mène vers Walungu. C'est parmi les grandes préoccupations.
Hein?
On vous a dit qu'il y a eu beaucoup de financement. Oh, il y a eu beaucoup de financement sur cette route, mais les travaux n'évoluent pas. Voilà les grandes questions sur lesquelles les partis politiques et les leaders devaient se prononcer.
Vous voulez les citer? Qui sont aux affaires aussi,
s'il vous plaît? Vous voulez qu'ils se prononcent sur quelque chose qui ne préoccupe pas.
Non, mais là, silence est complice, c'est en politique, ça ne fait cash.
Donnons-la.
En politique, ça ne fait cash. Madame Nenel, vous voulez
que la parole à
le Katintima se prononce. À travers son autorité morale, la Fifi
Massou.
Il a plus besoin de se prononcer.
Voilà, il y a l'FPCN qui a déjà mis l'homme au moulin. C'est facile pour vous, en tout cas, de vous exprimer. Vous sentez que vous avez des appuis.
Bon, seulement parce qu'on a des appuis, mais parce que si on s'est préparé suffisamment par rapport au débat. Voilà pourquoi quand les autres parlaient, je n'écrivais pas parce que toutes leurs préoccupations, je les avais déjà avant même les débats. Ce qui fait que quand on parlait, bon, Blaise en a touché par rapport à l'état des sièges. L'article 19, c'est une raison de plus de revoir cette constitution, parce qu'elle doit préciser quelque chose. Cet article doit préciser un état de siège partiel ou total. Même ça peut être même en cas d'urgence, on déclare l'état d'urgence. Est-ce qu'il s'agirait-il d'un état d'urgence
sanitaire
partiel ou total? Dès le moment que cette précision n'est pas là, ça laisse champ libre. Et encore, on peut aussi lever cet état de siège quand on veut. Mais la Constitution n'interdit pas de réfléchir à sa révision parce qu'on est en état de siège. Parce qu'en ce moment ici, même la réflexion n'a pas encore commencé officiellement parce que le chef de l'État a promis de mettre une commission de réflexion l'année prochaine. Oui, tout ce que nous faisons ici déjà... maintenant... Non,
Kabuya
tout ce que nous faisons commission... ici...
Kabuya
et... Non. Le chef de l'État va mettre une commission nationale qui va inclure tout le monde. C'est que le FSN a fait avec sa déclaration. Vous avez fait votre déclaration. Le PPRD en a fait. Ok, chacun... a réfléchi d'abord dans son coin.
Mais
la force politique de l'opposition.
Oh, il y en a combien, maman, on connaît. Alors, c'est ça. Et puis, la question de savoir, révision, changement. Je vais d'abord dire que de l'article 1er à l'article 229, aucun article de la Constitution n'interdit le changement de la Constitution.
Non.
Aucun article de la Constitution ne l'interdit.
L'article 218 parle de la révision.
Non, c'est ça. Oui. Non. Oui. Hey, écoutez, madame, expressis verbis, aucun article de la Constitution n'interdit, je dis interdit, donne-moi l'article de la révision de la Constitution qui interdit le changement. Voilà, il n'y a même pas celle qui autorise. Une raison de plus.
L'article 218 dit ceci.
Parle de la révision.
La révision,
c'est ce que je voulais vous faire voir. Que les constituants, les constituants des belligérants, là, ils sont restés muets quant à ça. Ok, et même, sur les 229 articles, même l'article 218, ne dit pas, si on doit réviser la Constitution, on doit réviser combien d'articles? Parce qu'on a 229 articles. Et si nous révisons les 229?
Changement total.
Parce qu'on ne nous limite pas. On peut réviser les... Sur 229, on peut réviser les 220. Vous allez encore parler d'une révision bien d'un changement. Parce que ça serait tellement en profondeur. Tellement en profondeur que c'est que on peut accepter le terme d'aspect civil, ok. Tout le monde a une révision. Et puis, on finit. On révise 227 articles sur 229. Madame, c'est tout à votre travail, comment ça coupe un jabou. Donc, il y a un problème à ma terme. Ok, il y a un problème à ma terme. Le problème, c'est le fond de ce que nous allons faire. Ok, le fond des textes, de ce que nous allons toucher, ça va toucher le cœur du pouvoir. Voilà pourquoi nous pensons que c'est un changement. Et même quand on dit que non, le président était clair. D'ailleurs, en commençant ce débat au début de ce mandat, c'est parce qu'on n'a pas voulu attendre à la fin pour dire que non, c'est parce qu'on veut les soupçons. Et aussi, c'est parce qu'on voulait savoir qui est avec nous, qui n'est pas avec nous.
Et on le sait déjà.
Ça commence à se dessiner. Ça commence à se dessiner. Parce que si tu sais que tu veux rester au pouvoir, l'article 70 est encore là, non? Alinéa 2, qui dit que le président reste en fonction
jusqu'à l'élection de
nouveau.
C'est que si on veut là glisser et avoir un autre mandat, sans le dire, on a encore un article 70 qui peut encore nous servir au moment opportun.
Parce que
qui a servi les autres? Alors, nous, on n'est pas là. On veut être honnête avec la population. Alors, Thaïs, nous venons à revenir. Pourquoi nous nous voudrions? On a cinq raisons principales. Un, c'est le contexte. Deux, nous allons parler des coûts des institutions. Trois, nous allons parler de l'environnement politique qu'il faut assainir. Quatre, nous allons parler de rendre les chefs de l'État responsables. Et cinq, nous allons parler de créer des nouveaux centres d'impulsion de développement. Voilà les cinq raisons qui nous poussent, nous. Quand nous allons parler du contexte, vous savez, un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. Les belligérants, comme mon ami l'a dit, ils ont fait un texte en 2005 qui était adapté à l'époque là, et vu le contexte dans lequel ils étaient, c'était acceptable. Et là, quand ils se sont posé la question de savoir, allons dans un état unitaire ou un état fédéral, ils ont opté pour l'état unitaire vu qu'on venait des rébellions, mais ils ont dit fortement décentralisé. Est-ce que la forte décentralisation a-t-elle réussi? Évaluons-nous 18 ans après. Parce que, je donne une madame Yvette a parlé qu'il y en a mal, comme si le problème de l'eau était résolu quand ils étaient au PPRD. Mais, je vais dire une chose, ce n'est pas pour ça que je voulais dire. Si la question, si on était dans un état fédéral, la question de l'eau, de la gestion de la régie des eaux, la question de la SNEN était sous les compétences du gouverneur de province. Est-ce que le problème de l'eau se poserait avec la même acuité à Bukavu? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un se... Parce que tout l'argent qu'on récolte dans ces deux endroits, parle d'abord à Kinshasa, il faut que nous... Mais quand le gouverneur de province vient à gérer directement les deux questions, les questions de l'eau, de l'électricité,
auraient
des solutions. On aurait peut-être des problèmes pas au même niveau qu'on a aujourd'hui. Donc voilà la nécessité pour avoir que nous pensons. Il faut un État fédéral, parce que certaines responsabilités, étant donné que ça doit être géré par Kinshasa, ça tarde à nous envoyer des réponses ici. Et nous en avons besoin.
C'est selon les statuts de l'île
de Presse. Oui, le fédéralisme. Deux, posez-nous la question. Pourquoi les militaires? Évaluons-nous.
le contexte de 2006 après la rébellion voudra c'est que les militaires et les policiers ne votent pas. C'était acceptable parce qu'on disait bote bakoye c'était de bata voter Azarias, de bakoye quoi MLC bata voter Bemba. Mais aujourd'hui, 18 ans après, est-ce que les mêmes contextes est justifié pour que ma militaire et ma policier va se continuer à voter?
Dans d'autres pays,
on doit s'arrêter, Thaïs.
On a ça comme un soldat va être pour voter.
Non! À l'époque, on pensait que le soldat va t'en voter, il va les toucher. Mais si tu fais du bon assistance à quand ça y est, ma camp militaire
et autres. Le député a député.
Papa, je vous appuie ça, député. Aujourd'hui.
Non, mais vu qu'on a erré qu'à vous.
Oui, c'est ça, oui, voilà.
Bah, il y a mouillé, mais on a voté,
alors, non, la question de savoir, arrêtons-nous pour réfléchir. Est-ce que le contexte de l'époque est encore le contexte actuel pour que c'est une partie de nos compatriotes qui meurent pour nous
ne
vote pas ceux qui doivent les diriger? La question de la nationalité. Vous savez, le PRM, avec le feu, pardon, Kaliba, que je connais, quand je faisais un travail à l'université, j'ai lu leur statut. D'où il y a Bibo était alors membre à l'époque d'ailleurs. Le PRM dit ceci, que pour un Congolais, c'est donc ses parents, ont été au Congo en 1908, lors de l'annexion du Congo à la Belgique. Mais la Constitution parle du 30 juin 1960. Donc pour eux, il y a certains citoyens congolais qui renient encore la nationalité congolaise à d'autres.
Oui.
Et là, sans tenir compte de la question de la double nationalité, la question des minorités. Vous avez été ici avec l'honorable Mouimvoa, qui vous a expliqué dans quel contexte, à l'article 51, au lieu de la minorité, ils ont mis les minorités. Et qu'on parle au pluriel. Mais dans la pratique, madame, c'est ça maintenant, dans la pratique, quelle est la minorité la plus observée et n'a pas encore ma gouvernement? Est-ce que ce sont les Nyendo? Entre les Banyamulenge et les
Mbandés.
Les Babouilles,
non, jamais. Non, pas d'abord, ils n'ont pas encore géré. En termes numériques, parce que quand vous minorité, c'est en termes numériques, qui sont moins nombreux au Congo. Mais aujourd'hui, depuis 2006, je n'ai rien contre le Banyamulenge. Ce sont des citoyens. Mais depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, à Bakou, c'est qu'un gouvernement provincial, le même gouvernement central. Parce qu'il y a un article qui parle de minorité. Est-ce que cet article ne les concerne que c'est
l'État. Ils sont représentés.
Parce qu'à l'époque, ici, après la guerre, vu que tous les Congolais, on n'était pas de bonne foi. Il y avait un sentiment de méfiance. Bakakwa minorisé. Alors il faudrait les protéger. Est-ce qu'aujourd'hui le contexte reste le même? Nous pensons non. Et là, nous devons évoluer.
Si le ministre Guissard part, il faut le remplacer par un autre Mouniamoulenge.
Bon, il faut trouver un autre Mouniamoulenge dans le gouvernement. Sinon, Batasema que.
Il ne va pas partir.
Alors, tu vois, ça pose un problème. Alors, c'est qu'il y a un contexte du passé. Et quand même, ici, quand vous voyez le contexte, je me rappelle, les RCD à l'époque d'Azara Soubéwa voudraient que notre mode de scrutin soit proportionnel à liste fermée.
Oui.
Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces débats.
Oui.
Blaise se connaît bien. Oui. Mais aujourd'hui, on a pris la proportionnelle. Pourquoi? Parce qu'on pouvait faire. Permettez-moi. J'ai d'abord le contexte. Je suis juste au contexte d'abord.
Qui est chargé.
Vous n'avez pas tout le temps.
Madame.
C'est
comme si tu
étais un enseignant de Odon. Calme-toi.
Avant que vous me coupiez, avant que je parle de quatre autres points.
Je voulais vous dire que tout comme Amani Luamba, Blaise, et vous-même, vous avez de bonnes idées. Mais pourquoi il faut vous poser
la question? Vous n'avez pas fini de déballer.
Oui, non, vous avez de bonnes raisons. Mais pourquoi la population, pourquoi la société civile et l'opposition ont peur justement de votre initiative?
Non, ils ont peur parce que vous avez mandat.
On ne vous a jamais vu vous exprimer avec beaucoup de biceps. Vous voyez, vous avez beaucoup de points comme
vous. Oui, il y a beaucoup de points d'ailleurs.
Alors, tout le temps pour concevoir ce que tu vas dire.
C'est ça. Pourquoi vous ne concevez jamais les mêmes idées
pour
plaider la cause des routes venues ici en délabrement très avancé? Bati ya kazi mko mnasema kama kuidentifier, kuidentifier watu ya kazi, c'est un problème dans ce pays.
c'est dans les seuls pays où on commence le boulot, on n'est pas reconnu par l'État. Jusqu'à arriver à la retraite, l'État est à Koulipak. Vous êtes incapable de réfléchir, de donner de vrais motifs. Dans l'autre pays, nous l'avons toujours dit, vous êtes engagé comme enseignant. Le mois qui suit, vous avez votre salaire, vous êtes bancarisé. Oui. Mais si chez nous, vous êtes incapable, vous êtes incapable, c'est pourquoi la population vous soupçonne de voir que vous ne voulez pas réfléchir, vous vous réunissez, vous avez tous les moyens, vous voulez mettre tous les moyens pour revoir ou changer la constitution, mais vous n'êtes pas prêt à mettre tous les moyens possibles pour changer le social du Congo.
Quand Blaise l'a proposé, on coupe le budget, on coupe le Sénat. Et nous, dans notre proposition, on voudrait que les députés ne soient plus payés.
S'il vous plaît. Pour
qu'il y ait cet léger taux de présence. Tenez, vous étiez d'ailleurs à l'Assemblée en 2007-2008, là, pour Maïdélé. Combien de séances on faisait par mois jusqu'à aujourd'hui? Combien? Tout ça, donc on va député va n'accueillir qu'à disparaître, tout est mort en monde, il n'y a pas ta salaire. Mais si le gouvernement réduit, on dit que j'ai taux de présence.
Les salaires ont suffisamment diminué, plus le mandat passe, mais à l'époque, en tout cas, c'était des réunions.
Vous étiez correspondant là-bas. Vous étiez correspondant, moi je me rappelle avec votre moto AG là.
AG100,
je me rappelle bien. Mais aujourd'hui, ça diminue, mais si on a réduit, parce que le problème, c'est quoi? Le but de cette révision, si c'est quoi? Il y a certains coûts que l'État supporte inutilement. Par exemple, on a un premier ministre, un cabinet de 500, un président. Mais on balaye ça directement, mais et tout ça, ça fait beaucoup de routes, des hôpitaux répondre à cette question.
Oui, mais si vous entendez comment les autres sont acharnés, parce qu'ils
on n'a même pas fini.
Ils y mettent du sel parce qu'ils veulent conserver les pouvoirs le plus longtemps possible en piétinant les droits de la population. Tout ce qu'on est en train de dire ici, je voudrais d'abord féliciter mon ami Blaise pour les éloges qu'il m'a adressés. Mais je voudrais aussi lui dire que tout ce qu'il a évoqué là-bas, ce n'est pas une innovation du FPCN. C'est nous qui avons commencé ces débats et lui se rappellera au niveau du groupe thématique élections et bonne gouvernance. J'ai encore notre note de plaidoyer de 2008 qui reprend tout ça. Tout ce que Théodore est en train de dire ici. La société civile a déjà fait des...
Vous écoutez,
non,
madame.
La société civile a déjà fait des réflexions. Mais pourquoi ils n'ont pas été attentifs à cette époque-là? Donc pour nous, tout ce qui est en train d'être dit, ça a déjà été discuté, maintes fois. On a été même à Kinshasa, on a saisi... Mais personne ne voulait nous écouter. Alors maintenant... Tout ce qu'on a dit ici, ce n'est pas une innovation. On a déjà fait ces réflexions, mais nous persistons, nous signons, ce n'est pas encore le moment.
Mais parce que le moment a changé, parce que le chef de l'État, c'est le garant de la nation.
On dit même qu'il est aussi le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Est-ce que c'est la Constitution qui lui empêche de le faire alors que c'est déjà dit dans la Constitution? Vous avez parlé des institutions budgétivores. Mais quelle est l'institution la plus budgétivore plus que la présidence de la République actuellement? Plus que la présidente, quand le chef de l'État se déplace, ce n'est pas avec moins de 150 personnes.
Voilà pourquoi il faut limiter
la présidence.
Il faut limiter la présidence. Nous capte pas.
Oui.
Donc il faut laisser chacun s'exprimer, passer ses idées et puis on vous donnera là. Quand vous dérangez l'autre, vous parlez, en fin de compte, ni vous ni lui, personne n'est écouté.
Merci Thaïs pour la protection. Donc j'étais en train de dire que tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est un débat qui avait déjà commencé à la société civile. Mais le contexte, j'y reviens encore. On parle de la constitution de belligérant. Mais on oublie que la société civile était aussi représentée quand on a rédigé cette constitution. Oui. Papa Tchira et les autres étaient là. Est-ce qu'ils sont des belligérants pour autant?
Ils ont eu de la paix.
Deux, la constitution a été votée par référendum.
Oui.
Parce que si on ne voulait pas de cette constitution, on ne pouvait pas la voter. Donc après belligérance ou quoi, après qu'ils aient fait leurs choses, on nous a amené, moi j'ai sensibilisé, j'étais je crois à l'époque animatrice de la CDJP à Mater Dei, je n'avais pas
encore été
réélue. Oui, on avait des moyens
pour ça. Là aussi on a tiré le numéro 7.
Non, non, on sensibilisait
pour... Vous retombez dans les mêmes erreurs.
Alors, c'est pas ça. Alors l'UDPS nous a, quand il est entré au pouvoir, nous a promis une gouvernance de rupture. Mais qu'est-ce qu'on a, à quoi on assiste aujourd'hui? Au lieu de rompre avec le passé, on copie. Donc ils sont en train de reproduire les mêmes erreurs du passé. Pourtant, quand le chef de l'État a pris le pouvoir en 2019, il a dit c'est une gouvernance de rupture. Et on l'attendait à cela, mais on voit chaque fois, on dit Kabila avait fait ceci, donc nous aussi nous faisons parfois même pire que Kabila. Donc moi je pense que ce n'est pas responsable de ce côté-là. On a aussi la crainte de la cohésion nationale. Moi j'ai vu, je venais de Kinshasa la fois passée, j'ai vu des militants de l'UDPS avec des machettes à Kinshasa. Et d'autres portent même, des tenues. Donc c'est pour dire que quand il y aura, non, ce n'est pas pour les salons. Ce n'était pas pour les salons, il y a d'autres qui ont des tenues militaires. Donc c'est pour dire que nous autres de la société civile qui donnons un avis contraire, on est exposés. On risque de nous décapiter, on risque de faire de nous des victimes. Donc nous pensons que le chef de l'État a toujours prôné un état de droit, il a toujours parlé du peuple d'abord, il a toujours parlé du changement de la rupture. Autre chose, quand le chef de l'État a été réélu en 2023, il a donné 6 priorités. Six très bonnes priorités. Parmi ces priorités-là, il n'y a pas le changement de la Constitution. Alors d'où ça vient qu'aujourd'hui l'UDPS veut nous montrer que c'est la priorité du
chef de l'État. L'appétit vient manger.
Donc les jours qu'il a prêté ses
mains, il est devenu même
il a très, 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 très bien.
Il va protéger
6 priorités qu'on a tous saluées. Il a été voté pour ça, il a bâti campagne ici. Il n'a jamais parlé du changement de la Constitution. Pourquoi on devrait nous faire avaler des choses aujourd'hui? Donc c'est pour cela que nous sommes en train, nous avons toutes les bonnes raisons. La CENCO s'est déjà prononcée. La CENCO, quand même, les princes de l'Église ne sont pas des maigres citoyens qu'on peut penser. Ils analysent des choses.
Ils ne vont pas
aussi. Ils votent.
Ils s'enferment dans les...
Non, ils votent. Moi, je suis observatrice de l'élection. Monseigneur Maroy a toujours voté au collège, Alphagy. D'ailleurs, c'est là qu'il s'enrôle aussi. Monseigneur Maroy a toujours voté. Vous avez vu même d'autres... Non, il a même voté aussi. Donc les évêques votent, ce sont des citoyens, et quand ils s'expriment, on doit avoir une attention à ce qu'ils disent. Ils ont été à maintes fois été reçus par les chefs de l'État qui leur a parlé, et ainsi de suite. Alors, on parle aussi de... Donc quand je parle de la cohésion nationale, les votes des militaires et tout, donc nous pensons à la société civile, les débats tels qu'il est annoncé aujourd'hui, nous fait perdre de l'espoir pour l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on voit que les amis de l'UDPS, contrairement peut-être, parce que je n'ai jamais vu Blaise injurier les autres parce qu'il a donné un avis contraire, mais à l'UDPS apparemment vous aussi, mais d'autres apparemment ils veulent en faire une guerre vraiment rangée contre ceux qui vont dire le contraire. Donc on ne peut pas tolérer
quand
ça.
On a la
donc
quand la société civile s'exprime,
la société civile
on devient même orgueilleux.
Oui, c'est ça. Donc on doit quand même voir d'abord la volonté. Donc on doit voir l'intérêt de la population, l'intérêt communautaire. Et pour nous, nous pensons qu'au lieu de changer la constitution, qu'on commence par changer la vie des Congolais,
d'accord,
qu'on restaure l'autorité de l'État. Mais même si on pourrait dire qu'il y a un référendum aujourd'hui, combien de gens de l'Ituri vont voter? Combien de gens du Nord Kivu vont voter? Parce que maintenant, désormais, tous les territoires du Nord Kivu sont envahis. Au sud Kivu, nous ne sommes pas épargnés, je vous l'ai dit. Alors le référendum, pourquoi vous voulez exclure une partie des Congolais? Donc moi je pense que le chef de l'État...
Bounagana nous appartient toujours.
Non, ça appartient aux rebelles
d'Yen. Il n'y a pas notre pays là-bas, c'est la RDC.
Voilà. L'autorité de l'État
n'est pas possible là-bas.
Je voulais reprendre, réagir à ce que Théodore a dit. Il y a l'article 220 qui dit ceci. La forme républicaine de l'État. les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. On ne parle pas de changement là-bas. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Parce qu'on dit non, le gouverneur des provinces n'a pas de pouvoir. Mais est-ce que vous avez déjà lu la loi sur la libre administration des provinces?
Oui.
Le gouverneur a le pouvoir. Il a tellement de pouvoir, mais le problème c'est quoi? C'est souvent les autorités morales, c'est souvent...
Donc moi je pense que...
Oui, l'Assemblée provinciale c'est une représentation du peuple. Toujours, même s'il y a des problèmes de l'Assemblée provinciale, c'est toujours les autorités morales. Donc moi je pense que ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est notre mentalité.
Voilà.
Le problème ce sont ces autorités morales là qui veulent toujours avoir leur pouvoir et qui ne veulent pas que les institutions fonctionnent. Mais ce n'est pas un problème des institutions.
Voilà, madame Yvette Rebouye, vous représentez l'opposition ici, vous êtes peu perdu. Vous avez la parole, madame Yvette. En fin de compte, vous avez suivi les autres.
Oui, oui.
Ils ont quand même de la matière, vous sentez qu'ils se sont préparés.
Oui.
Ils se préparent.
Il n'y a pas de souci.
C'est du bon guerre.
C'est du bon guerre. Il faudrait normalement qu'ils puissent arriver aussi à s'expliquer. Parce que quelque part, ils pensent que nous sommes en train de s'attaquer à eux. Au moment où nous sommes entrés juste de leur montrer la réalité. Blaise, s'il te plaît, tu as parlé, on était calme. Mais toi aussi, sois calme. Moi, je pense que quand ils sont en train de nous montrer, là, de nous enseigner des articles, des numéros 1, 2, 3, 4, 5, tels que je vois mon ami Théodore en train de les dire, pourquoi ils ne l'ont pas fait quand ils sont entrés au pouvoir?
C'est ça.
Premier mandat, deuxième mandat. Pourquoi ils ne l'ont pas fait que premier mandat quand ça au pays? Dieu a dit n'y a pas de guérifane. Si vous voyez, vous voyez que le président en a prêté serment. Alors, c'est manine, respect. Elle t'a respecté la constitution. Devant Dieu et devant le peuple. Mais ça, ça l'est au. En est dans mon contraire. En est dans mon contraire, pourquoi? C'est parce que quelque part, on a dû rendre compte Et moi, je pense aussi, le problème réel, le chef de l'État, le Patanini, il est équipé, il est coulé, gouvernement, il est toqué, il n'a pas pouvoir, il est l'équipe yenye, il croit inakamata kutia mutumbu. Il y a quelqu'un qui nous avait dit, est-ce qu'au Congo il n'y a pas émergence politique?
Il n'y a pas la jeunesse.
La jeunesse est là, mais les notables, les je ne sais pas, les telles personnalités, Koko Madina tous les inakouaka depuis.
Les vétérans.
Et moi je pense que c'est ça l'erreur que lui a fait. Si vous voyez aujourd'hui ces gens-là, Franga Yenye Balipata, depuis le Nyeviko, on a condamné Léo 18 ans, il y a Kabila. Nanjo, il est. Ngelikoua, président de la République, Angelisema Kaseme, non, Anenda Gissi, Alkamataka pouvoir, mon amour, et Akusema, Arsane, nouvellement à classe politique. Peut-être que je ne suis pas mourir à Léo. Mais ça, il y a un peu de grognon, il y a vu qu'on a qu'une oasis, il y a un peu de combat pour moi avaler. Alors avec ça, on a du coup, tu as juste échoué, mon bien-être quoi, enfant. Bien-être quoi, tu as fait, on a du coup, tu as ni l'un ni l'autre. Population, il y a un peu de personnes, on a du coup, ça ne va pas, même ce pays voisin, même le niveau international. Si on sait, il faut en aller où tu
es encore. Voyages.
Oui, malgré les voyages. Parce que moi, je me dis quelque part, tu as ici. Quand il a pris le pouvoir, et aujourd'hui, faisons quand même l'évaluation. Même quand on parle, oh, on a eu à glisser, et ils veulent passer par le changement de la constitution. Mais, moi je me pose la question, est-ce que c'est le glissement qui l'empêche ou la constitution de faire ce qu'il devait faire pendant mandat? Comme à chaque fois les glissés en Guelphane, il va être meilleur. Moi, il est une année, deux ans, il n'y a qu'on aille. Mais ni kangalia mzuri pays leo inashuka. Parce que tout le monde patia ka pouvoir. Na leo, bitu bilishuka sana, tunarudia zero, sa wakati ya Mobutu. Yenye sa yenye, afu kwele likuwa, inakamata pouvoir.
d'où tu kangali à Léo Mabalaval, tu kangali à Léo, il est situation, tu n'as pas ma somme, tu kangali à Léo, ma hôpital, vie n'a coûté tes nangou, ça n'a même le taux d'échange, dollar le kokungapi, n'a su tu l'achiaka au kungapi. Donc moi je me dis quelque part, je n'en disconviens pas, s'ils ont y apporté un plus autour de la population, pendant le mandat yabo, na wana onekana kama constitution et de là qu'on va freiner kufanya le meilleur. Ok, mais moi je pense que non, c'est faux. Ils n'ont rien fait pour la population. Par contre, ils se sont enrichis. Il faut aller à l'étranger pour qu'on ne va tout ma building ne va pas faire. Ma compte ne va pas faire. C'est le minerai qui est là. Ne le quoi quelque part, manière, tu sens vraiment que le gouvernement en place, c'est qu'il a va tout à tafouta au gisement qui est chantier qui pour qu'on parvienne quand même à voir le butin. Donc quelque part, Blaise Maseka et Théodore,
oui,
réfléchissons pour la population.
Tout à fait,
ma pays yote, il n'a réfléchi qu'à pour population. Na yenye hamukufanya mon premier mandat, mon deuxième mandat, c'est un pays na kwa mukao. Haïko y changement à constitution, Dieu t'a relevé situation. C'est du mensonge. Même quand on s'est attaqué ici pour dire les gens qui mènent des actions, parmi les choses qui nous ont bloqué nous, à l'époque, c'est parce que quelque part, on avait des personnes, on avait des notables qu'on disait allez arranger les routes pour la population. Banastia m'poche. N'allez vu qu'on a épigué à quel est le radio. On va partir à Makuta, aller construire les écoles. Oui, parce que quelque part, il faut vendre la Badamane na IDPC. Il faut vendre la coule couillon sacré. Parce que quelque part, il faut va j'y retrouver. N'importe qui va j'y retrouver, il faut va tout toucaner. Mais oubliant quand même les rôles, les Valifana pour détruire la population. N'a-t-il vu qu'on va faire même autour de Tshisekedi.
Voilà, nous sommes obligés de terminer l'émission. Merci, madame Yvette. Donc, c'est un débat au pays, chers auditeurs, la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution. Voyons voir quel camp va gagner, mais la société civile promet de récolter des signatures. Et c'est un travail qui commence déjà d'ici là. Voyons ce que ça va donner. Espérons que les autorités au niveau national vont également améliorer le social, parce que ce qui intéresse au fait la population aujourd'hui, ce ne sont pas ces débats que nous sommes en train de faire ici à la radio. Nous venons d'ailleurs de perdre beaucoup de minutes en train de discuter, mais ce qui est important, c'est de savoir comment on paye les agents fonctionnaires de l'État, comment ça fonctionne. On a dit que les agents de l'État qui sont en train d'aller se faire identifier, ils passent des nuits ici, donc c'est un problème. Hein? Comment on identifie les gens qui sont à Shabunda, qui sont à Mwenga, comment on améliore au fait les salaires des agents, parce que même si on est identifié que l'on vous donne 200 000 francs, 250 000 francs, alors que les loyers que vous devez payer, ça va vous coûter 500 000 francs. C'est donc c'est tout ça comme problème. D'ailleurs, ici chez nous, ça se paye en dollars. Amane Lomba, nous allons vous remercier d'avoir été parmi nous.
Merci donc, beaucoup, monsieur.
Le débat va se poursuivre.
Merci beaucoup, mais je suis en train de dire que l'État congolais, à un certain niveau, il a sacrifié son peuple. Et nous devons les interpeller d'avoir un regard sur la vie au quotidien de la population congolaise.
Ouais.
Mambo Yendeke. Donc, merci. Il y a vraiment beaucoup de choses à décrier. Mais nous appelons le peuple congolais à comprendre, à bien comprendre
bon.
Le pourquoi de la révision de la Constitution.
Merci beaucoup, Blaise. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, l'FSN, remercie Radio Maïla.
Le débat va se poursuivre.
Mais au-delà du débat, ce débat au sein de l'Union sacrée aura permis aussi au chef de l'État de détecter qui est les traites.
Mais est-ce que l'Union sacrée existe?
Elle
est divisée.
Oui, quelle est sa constitution en province?
Non, c'est là où je veux aller.
Oui.
Vous avez deux membres du Monido National originaires du Sud Kivu, mais incapables d'organiser l'Union sacrée en province.
C'est
grave. C'est grave.
les conséquences.
Ouais, c'est la constitution qui vous empêche de ne pas vous organiser politiquement aussi.
Non, écoutez, Thaïs,
merci beaucoup.
Thaïs, écoutez, la déloyauté est chère et tâche en politique.
Merci.
Le chef de l'État tirera toutes les conséquences.
Merci beaucoup.
Je voulais dire que le peuple a besoin du développement. Et certains développements ne peuvent passer par la révision de la constitution. Le territoire de Bafouassène est le plus grand de la RDC, 47 000 km². Ça signifie les sites qui ouvrent presque mon fils. Alors, pourquoi on doit rester avec 145 territoires ou bien avec 27 provinces? Quand vous voyez Kalemi aujourd'hui devenant une province, Kalemi a évolué. Pourquoi certains territoires le plus grand ne peuvent pas être divisés? Pour ceux-là qui pensent que le problème, si vous n'avez pas d'argument sur le débat de la Constitution, si c'est le débat des bilans de Tshisekedi, invitez-nous, on va venir avec les éléments. Parce que j'ai trouvé que Madame Yvette commençait à parler bilan, tout ça.
Oui.
Oh, les routes. Bon, Barabgara, j'ai dit Barabgara, j'ai dit Barabgara, j'ai dit Barabgara, j'ai dit
Mille bâtiments,
infrastructures déjà construites.
Plus de 1000.
Non, écoutez.
Vous faites en tout détourner les fonds qui étaient orientés pour Wallon.
Ces
politiques doivent remettre.
Il faut voir comment les populations à Wallon en Syrie. Vous
voir vos frères de Wallon. Je pense qu'on va se poser parce que.
Merci
beaucoup. Voilà.
Oui, merci beaucoup. Je continue. La société civile continue à persister à signer. Il faut qu'on change la vie des Congolais. Nous demandons au chef de l'État de réunifier le pays parce qu'avec l'agression, l'autorité de l'État n'est pas visible dans les provinces sous état de siège. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de routes. Nous avons besoin que ces détournements honteux, il y a des gens qui détournent des millions, ce n'est pas encore le changement de la constitution ou quoi. Il y a des problèmes, donc la vie sociale. Mais que ce soit la société civile, le détournement ne peut pas être une valeur parce que c'est quelqu'un de la société civile qui a détourné. Donc le détournement doit cesser.
Merci
et
beaucoup.
On doit vraiment voir l'intérêt de la population. Et nous disons toujours,
merci.
Congolais, mobilisons-nous, la nation est en danger.
D'accord, merci. Madame Yvette, merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie aussi.
Voilà.
Na sema asante sana. Na kitu moja ndeza sema tu ni kwamba si ye parti ya opposition hatuna na problemi yoyote, wala rebellion, wala revolte yoyote contre le gouvernement,
voilà.
Wala boga yoyote, mekwetu tunataka tu population njo iprime. Parce que problème ya changement constitution haiko problème d'homme.
Merci.
Na pourquoi avait de résoudre.
Asante sana. Merci. Nous allons remercier Joseph Tshizongo Talura Manwa qui a pris le relais de Jean-Claude Ndagué. Nous allons dire merci à tout le monde, tous les auditeurs qui étaient en train de nous suivre. La rediffusion de l'émission, c'est demain, lundi de 9h30 sur Radio Mandeléo. Moi, c'est Thaïs Bagoula. Merci à tous ceux-là qui étaient en train de nous assister. Bon dimanche.
Merci.